Bien, écoutez, avec votre permission, nous allons lancer cet après-midi de nos rencontres journée d'automne créativité et territoire. Donc bienvenue à toutes et à tous. Cet après-midi, c'est une configuration un petit peu particulière puisque nous avons souhaité qu'une discussion puisse s'engager sur ces questions de créativité et territoire parce que finalement, c'est une thématique qui est en train d'émerger comme régulièrement depuis une vingtaine d'années dans le cadre du développement qui s'est appelé local, territorial, etc. Voilà, peu importe. Toujours est-il que cette demi-journée, on a souhaité la faire avec Jackie Deniol et autour du témoignage et de la coordination intellectuelle de notre ami Jean-Pierre Cometti pour une raison simple. Pourquoi êtes-vous ici à l'espace Mendès France au mois d'octobre 2014 et pas à Paris dans les sous-sols d'un hôtel ou je ne sais où? L'espace Mendès France, qui est un centre de culture scientifique, a été créé voici maintenant près d'une quarantaine d'années par des scientifiques soucieux de divulguer les sciences auprès du plus grand nombre. Les scientifiques en question étaient des scientifiques issus des sciences dites dures, physiciens, mathématiciens, ingénieurs, divulguer auprès du plus grand nombre, divulguer, on appelle ça vulgariser, la notion de plus grand nombre étant, on ne peut plus, ouverte, floue et indifférenciée. Donc de ces chercheurs pionniers de la culture scientifique des années 70 a émergé un certain nombre d'opérations. À l'époque, Poitiers fait partie des rares villes de France et même en Europe où les chercheurs aller sur les places publiques, au sens propre du terme, aller dans les lieux commerciaux, aller même chez les gens pour faire des animations et pour dialoguer. Donc de cette expérience est née l'envie de créer une maison des sciences. On est dans les années 80 et cette maison des sciences a vu se confronter deux vieilles figures de l'histoire française, Condorcet et l'abbé Grégoire. Condorcet pour l'éducation populaire, la diffusion dans les couches sociales, et l'abbé Grégoire, la science se divulgue par l'objet. L'un ne va pas sans l'autre et l'autre peut se faire avec l'un. Donc, sont nés de toutes ces discussions le CNAM à Paris, le Conservatoire national des arts et métiers avec son musée. Sont nés des salons, des lieux de discussion. Alors si je dis ça, c'est que tout simplement vous êtes dans une maison, vous voyez cet après-midi il y a une cinquantaine de gamins qui sont inscrits à des ateliers, vous avez des visites d'exposition, une sur le climat, une sur le cerveau et les addictions, vous êtes dans une maison qui a résolument pris le parti de ne pas divulguer les sciences par l'objet, même s'il y en a de temps en temps, mais de divulguer les sciences à la fois par le partage, mais également par le débat, la confrontation, la disputation, je ne sais pas comment on va dire, etc. Donc ça, c'est un point important. Divulguer les sciences, si on prend un cran au-dessus, c'est participer à la divulgation et à la socialisation des connaissances. Donc vous comprendrez aisément que quand moi j'arrive comme directeur de l'espace Mendès France en 1991, après avoir fait autre chose, du management territorial en l'occurrence, très rapidement les sciences de l'homme et de la société se sont trouvées rapidement invitées à la discussion et on est aussi très rapidement passé des expositions de mathématiques, de chimie et de physique à des présentations qui allaient bien au-delà où étaient largement invités les représentants du monde de la recherche en sciences de l'homme et de la société. Dernier point, quand on parle de maison, on parle de lieu. L'espace Mendès France a depuis le début des années 90 souhaité partir à la conquête du public de la région Poitou-Charentes et nous sommes présents dans près de 800 communes maintenant par des opérations soit d'un moment. Hier soir j'ai emmené un neurosciences faire une conférence à Thouars. Conférence commencée à 19h, on est rentré, il était 1h du matin. Vous aviez dans la salle tout ce que compose une petite société locale, avec y compris des praticiens, puisqu'on parlait des addictions et du cerveau. Donc, action régionale très forte, nous avons participé à la création de plusieurs universités citoyennes ou populaires qui, dans des communes extrêmement petites en taille, mais soucieuses de qualité, de contenu, ont fait le pari de faire venir les gens de la ville universitaire de plus sur place. La plus petite commune dans laquelle nous sommes allés fait toujours d'ailleurs 270 habitants. Hein, voilà. Et on y va régulièrement et il y a des acteurs sur place qui relaient ce genre d'opération. Donc une plateforme régionale, j'ai employé ce mot un peu technocratique. Deuxième aspect, une politique ou un souci éditorial. Donc, d'ailleurs, dans la salle, vous avez Jean-Luc Terradillos, le rédacteur en chef de la revue L'Actualité, dont vous avez pas mal d'exemplaires dans le couloir, là, à l'entrée de la salle. Et une revue qui, en fait, met en perspective le fait qu'il n'y a pas de recherche scientifique, d'innovation, de découverte, d'invention sans la présence de communautés, sans la présence à l'intérieur de ces communautés d'individus. Donc la revue et tout ce qui se passe autour, nous avons créé une maison d'édition qui s'appelle Atlantique, tout ce qui se passe autour entend valoriser au-delà du chercheur, au-delà de l'intellectuel, au-delà de l'artiste, la réalité d'un territoire qui est, sans le savoir parfois, un peu comme Monsieur Jourdain, un creuset d'innovation, un creuset de volonté, de changement, d'aller de l'avant, etc. Donc une politique éditoriale qui vient compléter l'action régionale et qui vient compléter ce qu'est devenu cette maison, un lieu d'expérimentation, de nouvelles médiations. Si vous êtes là aujourd'hui, si Créativité et Territoire se trouvent impliqués dans un projet comme celui de l'espace Mendès France, c'est aussi parce que je pense que les formes de la médiation doivent changer. Mais pour qu'elle change et pour éviter les discussions de café du commerce, il faut aussi essayer de créer nos balises. Parce qu'en créant ces balises, en se mettant d'accord, d'ailleurs en se confrontant sur des mots qui paraissent évidents, on peut mieux se tourner vers nos concitoyens. Donc l'idée de l'espace Mendès France par rapport à Créativité et Territoire, c'était bien sûr d'aller dans le sens d'une poursuite de cette action en territoire, au plus proche de nos concitoyens. C'est 70 000 personnes par an maintenant, en région, dans le monde rural, 55 000 dans ce bâtiment. C'est d'aller à la rencontre de nos concitoyens, mais en allant à la rencontre de nos concitoyens, de susciter aussi des échanges qui leur permettent de témoigner de besoins, d'attentes, d'incertitudes. Hier, on a vu même beaucoup plus grave par rapport à l'addiction à l'alcool, en l'occurrence, mais également en zone rurale, des substances comme la cocaïne, le crack, le LSD sont arrivés largement et plus que largement, hein, puisque le commerce est journalier, ce qui paraît invraisemblable a priori quand on a une représentation comme ça, un peu les urbains et les ruraux, c'est, tout ça est mélangé. Et donc les attentes sont les mêmes, sauf que les aptitudes, les capacités, les opportunités pour acquérir un discernement en partant d'informations un peu stabilisé dans ces endroits, et c'est beaucoup plus difficile. Et donc là, nous avons accentué ce travail territorial là-dessus. Donc si nous avons souhaité sur Créativité et Territoire être présent, c'est pour être dans cet état d'esprit. Ce qui se dit ici est toujours remis sur la place publique. Plus de 160 conférences par an, débats et interventions, toutes maintenant sont enregistrées et toutes sont largement, comme on dit en français, podcastées sur notre site internet. Vous serez en direct sur le net à travers les captations images et le site internet de Mendès France, c'est plus de 25 000 personnes différentes chaque mois maintenant autour de cette offre qui est une offre à la fois éditoriale mais aussi une offre d'outils. Donc vous avoir dans nos murs, c'est aussi une opportunité pour retriturer ce qui vous paraît peut-être évident entre créativité et territoire et pour le redonner, le remettre à disposition de nos concitoyens et surtout montrer que la réflexion qu'il y a au sein de la communauté scientifique, les témoignages qui peuvent être faits par les acteurs peuvent être mis à disposition parce qu'au final, et étrangement, trop d'informations tue l'information, ça devient vraiment un truisme. En attendant, derrière cette confusion qu'il y a, derrière cette profusion, il y a aussi beaucoup d'attentes, je dirais même beaucoup de souffrances, hein, si j'écoute les praticiens psychiatriques de Thouars qui étaient hier à la conférence, parce qu'il y a du lien à recréer au-delà de l'information qu'on a sur Internet, etc., etc. Donc cet établissement entend participer à sa place, modestement, à Poitiers, dans cette région, à la recomposition d'un réseau national, voire international, de lieux qui, au-delà de lieux de connaissances bien divulgués, le mieux possible, du moins, dirons-nous, s'approprient une nouvelle façon de partager avec nos concitoyens. Pour vous remettre en perspective un petit peu tout ça, ça me paraissait important, avant de laisser la parole à Jackie et à Jackie Doniol, que je remercie, à Céline Nolo, qui ont beaucoup participé, travaillé à ça. Et puis, en conclusion, je voulais saluer mes amis de Louisiane, qui sont là. Ce soir, vous dégusterez de la cuisine venue de là-bas. On a un grand chef qui est venu pour nous. Nos amis de la vallée d'Aoste qui sont présents. Je voulais ceux qui arrivent des rues d'à côté aussi, parce que finalement, il y a quelques bouées de vin. Donc cet après-midi, on est plutôt en petit comité. Et demain, au vu des inscriptions, j'espère que la salle sera assez grande. On n'a que 125 places, parce qu'il y a de plus en plus de gens. J'ai encore d'avoir deux ou trois demandes. Donc demain et après-demain, on sera plutôt dans une configuration d'agora. Ceux qui sont à la tribune ne savent pas plus que ceux qui sont dans la salle, et réciproquement. Donc on aura aussi beaucoup de plaisir à susciter et à créer le débat. Donc moi, je voulais remercier celles et ceux qui venaient de loin pour aussi témoigner de cette indispensable approche qu'on a à contextualiser tout ça à l'aune des territoires, bien sûr, mais aussi à l'aune des cultures nationales, transnationales, etc. Donc nous, on entend derrière ça poursuivre le travail de diffusion. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues avec un certain nombre de collègues pour entreprendre, non pas un travail prosélyte, mais un travail de connexion et de mise en lien de cette approche qui me paraît vitale et essentielle. Donc, Jackie, je vais te passer la parole. Merci.
Merci, Didier, pour cette introduction. Juste un rappel pour dire, effectivement, c'est un exercice un peu novateur, un peu expérimental auquel on se livre, auquel on vous invite à vous livrer, qui correspond, au fond, finalement, au point de départ de cette notion de créativité territoire. Parce qu'au fond, métaphore, en quelque sorte, est née. C'était dans les années 2000-2002, à l'échelle de trois régions, Poitou-Charentes, Limousin-Centre. C'était déjà l'interrégion, vieux débat, et qui refait surface régulièrement, et donc aujourd'hui encore. Et là, c'était le choix Poitou-Charentes, Limousin-Centre. Peut-être pas forcément le choix qui sera retenu. On voit bien les débats qu'il y a autour de ça. Mais en tous les cas, il y avait une double volonté lorsqu'on a lancé ça en 2002. Il y a quelques personnes aussi qui sont dans la salle qui étaient présentes déjà dès cette naissance. C'était l'idée, d'une part, de sortir un petit peu des sentiers battus du développement local, parce qu'il y a pratiquement 300 réseaux de développement local en France. Si on devait en susciter un 301e, on ne voit pas la raison pour laquelle on prendrait les mêmes chemins que ces 300 réseaux. Donc, ce n'était pas la peine. Et deuxièmement, il y avait toute une réflexion autour, finalement, de la question de l'aménagement du territoire. Est-ce que c'est une vraie science? Est-ce qu'il y a une fausse science? Et puis, d'autre part, l'idée de solliciter un petit peu des expérimentations nouvelles. Donc voilà, il y avait tout ça. Et puis dans le contexte régional de l'époque, je rappelle simplement qu'il y avait été lancé en Poitou-Charentes les ateliers de la création, qui continuent toujours sous cette forme-là, plus ou moins, mais qui était justement cette affirmation du droit à la création pour chacun. Alors après, ce qui en est devenu, ce qui a été fait, ça c'est une autre affaire, mais il y avait ce contexte-là. Donc créativité et territoire est né de tout ça. Alors au début, à l'échelle, comme je disais, de ces trois régions, et on s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait des travaux, notamment je pense à ceux de Richard Florida, ceux de Charles Landry, voire également tous les travaux menés autour des créatifs culturels par Ray Anderson, repris en France, ou par la fondation Budapest en Europe, mais au fond, quand même peu de recherche développement en France sur cette question, cette liaison entre créativité et territoire. Donc je pense que cet après-midi, elle s'inscrit dans cette démarche-là, au fond, de confronter à la fois quelques chercheurs qui ont bien voulu accepter d'être parmi nous aujourd'hui, et puis des praticiens que nous sommes aussi, que vous êtes, et de voir, voilà, c'est un exercice auquel on se livre. L'idée étant effectivement que cette idée de recherche, mais on verra dans l'après-midi qu'il y a des propositions qui sont faites comme point relais à l'avenir. Je pense entre autres à une réunion qui aura lieu à Aix-en-Provence, mais je laisserai à Yvette Lazéry le soin de nous en parler. Je pense que c'est une réunion importante, mais les journées d'automne s'inscrivent dans cette démarche-là. Et donc je peux déjà vous dire que l'an prochain, les quatrièmes journées auront lieu les 20, 21 et 22 octobre. Donc retenez déjà cette date. Voilà, celles-ci ne sont pas commencées, ne sont pas terminées, que nous avons déjà fixé celle de 2015, en accord avec Didier. Voilà. Et je voulais aussi remercier Didier de son accueil, parce que c'est vrai que moi, je n'appartenais pas à l'EMF avant 2014, j'appartenais à l'IAT. Et c'est grâce à l'EMF, quand même, dans ce partenariat avec l'IAT, que ces journées d'automne et cette démarche créativité des territoires a pu être menée et en est au stade où elle en est aujourd'hui. Donc, pour introduire le sujet, j'avais demandé à Jean-Pierre Cometti de nous inciter à réfléchir. Voilà, donc je lui ai passé la parole. Puis ensuite, je vous solliciterai un peu au fond, et puis vous aussi, hein, de votre côté, en fonction un petit peu des choses qui pourront avancer au cours de l'après-midi, en sachant, pour juste les problèmes d'organisation, que donc à 17h, donc 5 minutes, 5-10 minutes avant, la guide conférencière de l'Office de tourisme de Poitiers nous attendra ici dans le hall, Nathaël Gervais, qui nous fera voir un côté de Poitiers, peut-être que certains d'entre vous connaissent ou d'autres ne connaissent peut-être pas, à savoir Poitiers, ville des savoirs. C'est un thème d'ailleurs qui est très cher à Didier, il pourra peut-être en dire deux mots aussi à ce moment-là. Et ensuite, Didier Moreau l'a précisé, il y aura le côté festif, donc avec nos amis de Louisiane et notre collègue marocain, enfin français-marocain, marocain-français, il se présentera lui-même, Yassir. Et voilà, donc la journée. Et ensuite, demain, effectivement, ce sera plus consacré à des tables rondes avec des expériences à la fois extérieures à la région et à la fois propres à la région. Et on essaiera à chaque fois de créer peut-être des étonnements, des choses un peu nouvelles, puisque c'est le but de ces deux journées. Voilà. Donc je passe la parole à Jean-Pierre Cometti pour introduire un peu la discussion.
Merci, et merci d'abord de m'avoir convié à ces journées. Une fois de plus, je suis très heureux de me retrouver ici. Avec cette tâche donc, d'introduire les discussions qui vont avoir lieu autour de créativité et territoire. Alors, c'est la notion de créativité qui va retenir mon attention pendant quelques instants, pas trop quand même. Et je pensais justement à l'instant, lorsque vous évoquiez les commencements, si je puis dire, les conditions dans lesquelles l'espace Mendès France, où nous nous trouvons, a été créé, vous invoquiez le rôle des sciences dures, qui s'est ensuite ouvert aux sciences sociales. Et je me suis souvenu, vous écoutant, qu'à cette époque-là, en effet, dont je me souviens aussi, mais dans d'autres circonstances, les sciences dures occupaient une place importante, avec des soucis dont vous avez fait état, en tout cas de la part de certains chercheurs, mais on ne parlait pas de créativité. Et je crois que c'est significatif. Significatif de ce qui a changé, je dirais, dans les sciences, certainement, avec justement le rôle peut-être accru depuis des sciences sociales, dans la société et aussi dans l'économie. Je me souviens que sur un plan, je dirais, épistémologique, lorsqu'on s'intéressait aux sciences à cette époque-là, ce qui, il se trouve que c'était mon cas, on parlait plutôt de construction. Les gens qui parmi vous ont lu cet ancêtre, l'épistémologie dont on ne parle peut-être plus, je n'en sais rien, c'est Gaston Bachelard. Bachelard disait « l'objet scientifique est construit ». Et je crois qu'aujourd'hui, on ne serait pas loin de penser qu'il est créé. Alors, je vais un peu loin, parce que c'est une question très controversée. Il y a qu'il s'agisse d'une thèse qui a été soutenue, hein, qu'il y a dans l'objet bien, je dis bien dans l'objet scientifique, quelque chose qui est créé. C'est-à-dire quelque chose qui émane de notre faculté, de nos facultés d'imagination, de mise en œuvre de dispositions et de dispositifs qui ne sont pas donnés. Et quand je dis « créer », entre guillemets, ce n'est pas une thèse que je défends, j'y fais simplement allusion. Quand je dis « créer » et non pas « construit », je pense en effet à ce qui a changé. Je veux dire ceci. C'est que, au fond, dans les sciences, pendant assez longtemps, en tout cas pendant une période qui a occupé une bonne partie du XXe siècle, l'idée était, au fond, que la science était quasiment une affaire de, enfin, une affaire de construction, je dirais presque de planification. Qu'au fond, il existait dans ce domaine des démarches qui pouvaient être considérées comme à la fois légitimes, quasi canoniques et fécondes dans lesquelles il convenait de s'engager et sur des bases qui faisaient en effet de l'objet scientifique, de l'objet de la science, un objet construit à travers la mise en œuvre de ses possibilités, de ses facultés et de ses ressources. Il y a là une image, je ne veux pas y insister, parce que je ne veux pas vous ennuyer avec ça, mais une image de la science qui, je crois, si j'ose dire, a pris du plomb dans l'aile, pour toutes sortes de raisons qui étaient d'ailleurs certainement déjà perceptibles, déjà visibles au début du XXe siècle, lorsqu'on a eu les grands débats que nous connaissons au sein de la physique, par exemple, entre la physique de la relativité et la physique quantique, mais qui se sont ensuite accentués ou affinés, je ne sais pas comment dire, lorsqu'on s'est peut-être aperçu que d'abord l'utopie scientifique qui était liée à cela était beaucoup plus fragile qu'on ne pense, que, en définitive, la démarche scientifique est ouverte à toutes sortes d'aléas auxquels on n'a peut-être pas pensé. Et c'est à ce moment-là, ça ne se voit pas tellement dans le contexte français, ça se voit davantage dans le contexte américain, à ce moment-là que dans le champ de la réflexion sur les sciences, l'épistémologie, les sciences sociales sont venues prendre leur place. Or, ce moment, qui est un moment de glissement vers autre chose en épistémologie, a également correspondu à toutes sortes d'incertitudes qui sont nées, je vais passer parce que c'est pas trop insister là-dessus, d'incertitudes qui sont nées dans les sociétés, qui sont les nôtres aujourd'hui, et qui se concrétisent au fond dans certains usages et mésusages, peut-être du mot créativité, et aussi dans toutes sortes de perspectives qui s'y sont logées, et pour lesquels, au fond, nous sommes réunis ici. Alors, c'est une sorte d'entrée en matière. Je voudrais justement réfléchir un petit peu à travers ce qui, me semble-t-il, a changé, qui m'apparaissait en réfléchissant à l'instant, à ces usages du mot, au mot créativité. D'abord, ces mots-là, alors création, créateur surtout, créativité, sont devenus d'un usage courant. Tout le monde peut aisément s'en convaincre. Il suffit d'ouvrir, de mettre en marche la radio ou la télévision, de lire des magazines. Il y a presque une inflation de l'usage de ce mot. Hier, j'écoutais France Inter, dans des informations. Il y a toujours 10 minutes où on interroge quelqu'un, il s'agissait d'un créateur. Alors, bon, ça fait partie des habitudes. Et cette sorte d'usage du mot vient, il faut peut-être le souligner, d'une sorte de migration. Ces mots, création, créativité, créateur, ont migré des domaines où ils étaient cantonnés depuis le XIXe siècle, qui étaient principalement le domaine artistique, après avoir connu une première migration, n'oublions pas que le terme est théologique, initialement. Donc, du domaine des arts, essentiellement, au sens où on parle encore de création artistique, tout simplement, vers un champ d'application ou d'usage beaucoup plus large, qui recouvre aujourd'hui justement les domaines des sciences, mais aussi de la mode, des entreprises, et disons plus largement de la culture. Alors, les raisons de ces migrations, on pourrait les étudier, mais je n'en ai pas l'ambition, je ne veux pas y insister davantage, mais il me semble qu'il vaut tout de même la peine d'y réfléchir un petit peu pour savoir tout simplement de quoi on parle. D'abord, j'observerai que l'usage du mot création, je me concentrerai surtout sur le mot création, et par conséquent de ses dérivés, tend assez souvent à désigner qualité particulière d'individu ou de groupe auquel justement on attribue la capacité de produire du nouveau, d'innover. C'est dans ce sens, par exemple, qu'on parle assez souvent de groupes créatifs. Il en était question, par exemple, dans un rapport qui concernait les réunions qui ont eu lieu ici. Et là, on pense alors plus particulièrement peut-être à ce qui se passe dans les sciences. Mais exactement de la même façon, on dira d'un individu qu'il est créatif lorsqu'il possède cette capacité. Donc il y a là une capacité particulière, aujourd'hui très prisée, mise en avant, mais qui est plutôt traditionnellement associée à des individus, éventuellement à un groupe. Produire de nouveaux objets ou de nouvelles méthodes, en ce sens, c'est être créatif. Et on sait, je rappelle au passage, que le langage des managers, le langage managérial, s'est approprié à cet égard toute une gamme de mots de ce genre ou du même genre qui tournent autour des mêmes configurations. Comme il y a déjà maintenant un petit peu de temps, Boltanski et Capello l'avaient montré dans un ouvrage qui s'intitulait « Le nouvel esprit du capitalisme ». Avec donc des habitudes de langage qui tentent à faire de l'entreprise d'aujourd'hui un foyer de création, où finalement tous ceux qui n'ont pas cette capacité, la capacité d'innover, de sortir des sentiers battus, eh bien, n'ont pas leur place. Et c'est effectivement, d'ailleurs, ce qui se passe, mais je n'insisterai pas trop là-dessus. C'est-à-dire que les modèles qui se sont imposés de ce point de vue, je veux dire, au sein de l'entreprise, on le sait, là aussi, ce sont des choses qui se voient très, très aisément, sont ceux de la Silicon Valley, et puis de tous les sites qui, un peu partout dans le monde, en ont fait un modèle, au point où la création des entreprises, j'insiste sur le mot création, devient elle-même un exemple pour tous ceux qui rêvent d'une économie innovante, et d'une économie innovante à laquelle commencer en outre, les ressources d'Internet ont en quelque sorte donné corps. On crée des entreprises, on parle de créateurs d'entreprises. C'est un langage qui n'a pas toujours été usité. C'est-à-dire qu'il y a une image du manager qui est en train de prendre corps et qui rappelle, à vrai dire, je ne veux pas trop prendre de temps, mais qui rappelle, vous savez, ce qui s'est joué il y a très longtemps. Parce qu'il y a un ouvrage très intéressant là-dessus. À peu près vers la fin de la Renaissance, autour de ce qu'on appelle la légende de l'artiste. La légende de l'artiste, c'est la légende de cet individu particulier qui possède des dons particuliers en ce qu'il est créateur. Eh bien, je me demande si cette légende de l'artiste n'est pas aujourd'hui en train d'être relayée par la légende du créateur et de s'incarner aujourd'hui significativement, on en aperçoit les signes, dans la personne du chef d'entreprise. On peut très aisément s'en rendre compte. Mais c'est une sorte de symptôme. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. En tout cas, la contrepartie de tout cela, d'un point de vue économique et social, général, c'est quand même... On se laisse bercer, on a tendance à l'oublier, une vision passablement tronquée, en ce sens qu'elle laisse croire que le modèle qui se dessine sous nos yeux a éclipsé les économies plus traditionnelles, alors qu'en fait, on les a simplement exportées, délocalisées, comme on dit aujourd'hui. On voudrait nous faire croire que l'industrie... Enfin, on a pu penser que l'industrie, la puissance industrielle était quelque chose de passé de mode ou quelque chose comme ça. Il est bien évident que ce n'est pas le cas. Nous sommes environnés d'objets industriels. Et ceux qui les produisent n'inventent pas. Ils ne créent pas, ils produisent. C'est-à-dire que la production, ça existe encore. Ça existe. Donc, la vision qu'on privilégie tend souvent à... produire une image tronquée de la réalité, et je crois que c'est en partie le cas sur le plan économique. Ceci au bénéfice, au fond, d'une vision qui consisterait à penser qu'il y a désormais une sorte de mariage heureux de l'art et de la science, de la science et de la technique, de l'art, de la science et de la technique et l'économie, tout ça autour d'un visage qui serait celui de l'homme créateur. D'où toutes sortes d'usages ou de slogans. Ce qui se dessine aussi dans cette configuration que je suis en train d'évoquer à grands traits, c'est également une idée sur laquelle un chercheur dans les sciences sociales a attiré légitimement l'attention, c'est Pierre-Michel Menger, dans un livre tout à fait intéressant, c'est un petit livre en outre, il y a des travaux plus conséquents de sa part, qui s'appelle « Portrait de l'artiste en travailleur ». Menger soutient une thèse dont je vous fais part rapidement, vous êtes peut-être déjà familiarisé avec ces idées, selon laquelle, la création artistique, c'est un travail. Il serait faux de croire que tout ce qui concerne l'art est en dehors de l'économie. Il s'efforce de mettre en lumière les formes de division du travail qui existent dans ce domaine. Et il essaie de montrer également que ce qui finalement domine et constitue la contrepartie de la créativité artistique, c'est l'indétermination. C'est-à-dire le fait qu'on est dans des secteurs, dans un secteur d'activité où rien n'est jamais acquis ni assuré à l'avance. L'indétermination, c'est la contrepartie de ce qu'on appelle la création. Mais l'indétermination devient aussi, à partir du moment justement où on s'engage sur les voies du modèle de la création, l'indétermination devient du coup l'horizon naturel de toute activité dès lors qu'elle se veut créatrice. Et Menger pense que finalement, par rapport à certaines évolutions de nos économies, pour tout dire les choses, enfin pour dire les choses en mot, par rapport aux évolutions qui sont actuellement celles du capitalisme, l'indétermination, qui jusque-là marquait essentiellement le travail artistique, devient une valeur. Lorsque, aujourd'hui, on plaide en faveur de la flexibilité du travail, comme on sait, c'est-à-dire pour des raisons qui peuvent par ailleurs paraître légitimes, je ne veux pas entrer dans ce genre de débat, on plaide en faveur, en fait, de l'indétermination. Donc il y a là un aspect, un volet des discussions actuelles sur le travail, l'innovation, la créativité, n'est pas toujours aperçue, mais qui constitue, me semble-t-il, un aspect donc important de la réalité. Et bon, Menger s'efforce de mettre ceci en évidence. Évidemment, l'indétermination présente des inconvénients, au niveau bien sûr des conséquences qu'elle entraîne, qui ne sont pas toujours d'ailleurs en accord avec les mots d'ordre mobilisés. D'abord, le modèle de l'indétermination est solidaire d'une logique de la compétition, dont on sait qu'elle a, ou qu'elle tend en tout cas, à investir le corps social et l'éducation, en compromettant par ailleurs certaines fonctions traditionnellement associée à l'éducation, et peut-être plus réellement favorable à l'individualité et à la recherche. C'est une question qui se pose. Est-ce que, en effet, les modèles qui se profilent à travers parfois l'usage du slogan de la créativité ne sont pas de nature à compromettre des missions qui avaient été traditionnellement celles de la recherche, du plan scientifique, et de l'éducation. C'est une question qu'on peut, me semble-t-il, se poser. Et puis, ce modèle donc de l'indétermination que je crois percevoir dans tout cela, et selon les thèses Menger, peut-être faut-il aussi le situer dans un contexte plus général qui me demande à être apprécié au-delà des finalités privilégiées par le type d'économie que nous connaissons, dominée par la compétition, mais aussi par la croissance, à un moment où, il faut bien le dire, elle a cessé d'être évidente, ne serait-ce que factuellement, et où on commence à s'interroger sur la question de savoir dans quelle mesure il faut encore parier sur la croissance. Je veux dire que les questions que l'on se pose lorsqu'on raisonne dans les termes dont je viens de parler sont aussi, me semble-t-il, celles-là. Ce que je veux dire, par conséquent, c'est que s'il faut voir, et si l'on est spontanément porté, légitimement, à voir dans la créativité une fin désirable, encore faut-il, me semble-t-il, la définir à partir des choix qu'elle implique, des conditions dans lesquelles elle nous engage et de ce qui me semble, de ce point de vue, demander nécessairement à être clarifié. Alors, je n'ai pas tout à fait fini, vous m'en excuserez, mais du point de vue de cette clarification souhaitable dont je viens d'essayer de donner les raisons, on peut adopter deux points de vue. Je dirais un point de vue philosophique, vous m'excuserez, et un point de vue pratique. Est-ce qu'il existe une philosophie de la créativité? C'est la question qu'on peut se poser. Ce qui me semble sûr, c'est que l'usage de ce mot est associé incontestablement, et ce que je viens de dire me semble en témoigner, un ensemble de croyances, d'arrière-plan, qui en effet forment peut-être une philosophie, au sens où on utilise quelquefois ce terme, en ce sens qu'on peut y voir les traits d'une conception générale, peut-être d'un esprit, du monde et du temps. J'ai tendance à penser, mais j'en ai déjà indiqué les raisons, que, de manière générale, je dis bien, cet esprit est effectivement celui du nouveau capitalisme. Et que non seulement il en est partie prenante, mais qu'il lui sert de justification. Alors, quelle est cette philosophie-là? Pour essayer très rapidement d'en dessiner les traits, pour ensuite essayer de prendre licence, évidemment. Il me semble qu'il s'agit d'une philosophie qui est entièrement solidaire de présupposés qui sont grosso modo ceux de la pensée libérale. Ne croyez pas que je vais entonner le refrain sur le libéralisme, c'est pas ça. Mais je prends ce que ce terme désigne historiquement. C'est-à-dire en pensant à cette sorte de credo qui concerne, dans la pensée libérale, l'individu. L'individu conçu comme pôle privilégié de talent et de désir, et qui, pour la pensée libérale, est au cœur de toute chose. C'est-à-dire, en constitue le centre. Cette philosophie de l'individu se prolonge dans une conception de la liberté et dans une éthique du risque qui frappe de contingence les actions de chacun, et peut à tout moment se résoudre, évidemment, dans un principe d'utilité qui est destiné à en mesurer le sens et la justification. C'est-à-dire qu'au fond, en résumant très grossièrement, ce qu'on peut voir, ou plutôt apercevoir dans cette philosophie-là, c'est une sorte d'individualisme utilitariste, au regard duquel, observons-le bien, le bien commun est un effet de ce que chacun entreprend dans un but qui est au fond celui de la maximisation du profit, en tout cas sociologiquement. je n'ai pas besoin de dire que beaucoup s'en accommodent. Et peut-être même en pensant que la créativité fait appel à cela. Et qu'elle constitue, de ce point de vue, un bien à la fois pour l'individu, puisqu'il trouverait le principe d'une sorte de développement de soi ou d'autodéveloppement, et puis d'un enrichissement général. Cette philosophie, que vaut-elle ? Que laisse-t-elle de côté ? Est-ce qu'elle parvient, si elle est effective, à ménager les deux faces de la créativité dont il y est question ? Comment articuler ce genre de philosophie à des initiatives qui mobilisent ce qui, à nos yeux, paraît le plus souhaitable, tout en se débarrassant éventuellement de ses effets malfaisants ? Je crois qu'il s'agit de l'une des questions qu'il convient de garder présente à l'esprit, mais avec peut-être une possibilité de réponse à cela que je formulerai de la façon suivante, à savoir que ce qu'il faut prioritairement surmonter, me semble-t-il, c'est cette conception de l'individu implantée dans une certaine idée de la créativité, et celle qui fait, justement, à ce titre, l'économie, qui passe sous silence, je veux dire, des conditions sous lesquelles les individus peuvent trouver dans les actions et les activités dans lesquelles ils s'engagent réellement des possibilités d'accomplissement, de développement ou d'autonomie. Il me semble que si l'on devait forger un concept pour cela, il faudrait pouvoir parler d'autonomie solidaire. Qui ressemble un peu à une sorte d'oxymore, mais qui n'en est pas. Car si l'idée de créativité a un sens, c'est peut-être une chose qu'il faut toujours rappeler, elle doit embrasser à la fois les bénéfices communs qu'il est permis d'en attendre, autant que les bénéfices que chacun peut en attendre et peut en tirer d'un point de vue personnel. Nous avons là affaire à deux exigences, et je crois que ces deux exigences ne se dissocient pas. Elle ne se négocie pas, comme on dit aujourd'hui, dans un langage significatif. Donc il y a là quelque chose qui semble important et qui devrait nous conduire à prendre quelquefois des précautions de langage, des précautions qui concernent l'usage des termes que nous choisissons. Mais évidemment, il ne s'agit que d'une perspective de clarification et de thérapeutique du langage qui ne résout en elle-même et qui doit nécessairement se prolonger dans des considérations pratiques. J'en viens donc très rapidement à ce second volet. D'une certaine manière, au fond, on pourrait dire, en reprenant la question, que créer ou inciter à la création, c'est inciter à sortir des sentiers battus. Et peut-être faut-il considérer que, de ce point de vue, la créativité, ça ne se décrète pas. Et justement, ça se construit, ça se met à l'épreuve, dans des situations, c'est ça le côté pratique, à partir justement de perspectives, et j'ajouterai de perspectives communes, susceptibles de valoir comme des fins souhaitables, des fins que nous souhaitons ou que nous souhaiterions privilégier. C'est-à-dire que les perspectives sont nécessairement des perspectives de préférabilité. Il me semble, à partir de la connaissance que j'en ai et des travaux qui ont déjà eu lieu autour de cette question, que le thème de la créativité dans les territoires répond à ces conditions. Il me semble répondre à ces conditions. D'abord, en cela, qu'il se concrétise dans des situations et dans des difficultés qui sont en partie, il est vrai, créées par une économie en panne, en relation donc avec des orientations économiques que j'ai rapidement évoquées, mais en ce sens aussi qu'il enveloppe des aspirations auxquelles, justement, des facteurs à la fois économiques et politiques font aujourd'hui obstacle, ne serait-ce qu'en raison de ce que l'on peut y percevoir comme un double déficit de solidarité et de participation. Je crois que ce sont ces aspirations qui s'expriment à de multiples niveaux aujourd'hui, par exemple, mais négativement, dans l'indifférence politique qu'on peut observer un peu partout, et puis aussi positivement, plus positivement, justement dans des engagements associatifs, par exemple, où là, les deux exigences que je mentionnais semblent se conjuguer, et se conjuguer, certes toujours de façon problématique, mais se conjuguer positivement. Et je crois que sous ce double rapport, les évolutions que nous avons connues, que le monde a connues au cours des dernières décennies, se sont révélées tout à fait importantes. Elles se sont révélées pour une part désastreuses, il faut bien le dire. Il s'agisse de ce qu'on appelle la mondialisation, voire, il faut bien le dire aussi, de la façon dont l'Europe s'est construite, si l'on peut dire. De tout ce qui a perturbé la décision et la localisation des centres de décision. Et je crois que c'est par rapport à cela, précisément, par rapport à ces perturbations, qui s'accompagnent d'ailleurs d'accommodements tout à fait clairs par ailleurs, d'aménagements qui, par certains côtés, si vous voulez, répondent à ce que nous considérons aujourd'hui comme la rationalité économique, c'est par rapport à cela que le local, les territoires, acquiert une valeur, un relief en tout cas, que les belles années du capitalisme avaient en effet déserté. C'est-à-dire que nous avons connu une période où précisément le local est complètement sorti de notre horizon. Là, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le local prend à nouveau du relief. Et parce que, justement, en partie aussi, parce que la question de la décision se pose dans des termes dans lesquels elle ne se posait pas. Et de façon, si j'ose dire, décisive. Justement. Donc, manifestement, le local, le territoire, acquiert un relief qu'il n'a pas toujours eu au cours des évolutions les plus récentes. On peut en trouver des signes multiples, dans les initiatives qui sont celles des individus et des groupes, et en particulier dans les engagements associatifs. Il n'y a jamais eu autant d'associations. Donc, les engagements associatifs, je ne sais pas comment dire, la consommation localisée, l'intérêt, l'attention que l'on prête à cela aujourd'hui, jusque dans les comportements de consommation, et puis aussi un autre versant plus trouble, plus problématique, qui est celui des nationalismes, qui ressurgissent un peu partout, comme en même temps, il faut bien le dire, autant de signes de protestation et de menaces obscures. Je ne sais pas de quoi il sera exactement question aujourd'hui. Au cours de ces journées, il sera question d'expériences diverses. Il me semble que, de toute façon, nous y trouverons autant de témoignages de ce que je crois pressentir ou deviner à ce niveau. Et de toute façon, les expériences qui existent, dont nous avons connaissance, je crois, ne peuvent que davantage nous inciter à garder en vue, dans notre vision, la double finalité d'une recherche des conditions de la créativité, si du moins, justement, on doit s'écarter de ce qu'on pourrait appeler la mauvaise créativité, celle à laquelle je faisais allusion en commençant. Celle qui contribue en fait à reproduire la situation, qui nous paraît à bien des égards si peu satisfaisante. Évidemment, une telle recherche ne peut faire l'économie des contextes ni des fins dans lesquels elle s'inscrit. Et si on doit lui associer différentes alternatives, il faut encore à savoir à quoi on s'expose. Personnellement, et j'en ai bientôt fini, je retiendrai cinq points qui me semblent importants à titre de discussion de fond autour de ces questions. D'abord, il me semble que dans tout cela, chaque fois qu'on s'interroge sur les conditions d'une créativité qui réponde à nos aspirations, la question de la croissance finit toujours par se poser à un moment ou à un autre. Donc il y a un point obscur dans toutes ces questions qui concernent la croissance. Il y a aussi le fait que tout ce qui nous semble apparaître dans des perspectives globales ne peut pas être dissocié du local. Cessons de dissocier le global du local. Et cessons également de dissocier le privé du public. Je crois que dans toutes les questions qui touchent à la créativité, il faut réévaluer la question ou la part respective du privé et du public, et ceci de façon critique. Et puis, bien sûr, puisque la créativité, ça ne se décrète pas, comme je le signifierai tout à l'heure, poser des problèmes en gardant en vue les problèmes ou la dimension d'éducation nécessairement présente dans ces questions. Donc, se pose également la question des options qui sont les nôtres en matière d'éducation. Et bien évidemment, c'est un cinquième point, en matière aussi d'équité et de justice. Alors, bien entendu, ces questions sont ouvertes, elles ne sont pas immédiatement perceptibles nécessairement dans toutes les questions qui touchent la créativité, celles qui seront abordées au cours de ces journées. Elles se heurtent également, ces questions, à des obstacles, mais il me semble qu'elles supposent, à quelque niveau que ce soit, la conscience d'un bien commun. Et je crois qu'il faut aussi aborder cette question en conséquence par rapport à toutes les perspectives qui se présentent à nous en termes d'expertise, par exemple. Quelles en sont les limites? Quelles en sont les menaces? Quelle est la défiance qui doit être la nôtre à cet égard, etc., etc. Si du moins on garde ce cap-là, celui du bien commun, et puis cette idée, cette conscience qu'au fond, la créativité, elle est toujours associée à un agir social, plus qu'à un agir individuel. On pourrait peut-être parler à cet égard de créativité démocratique, c'est-à-dire une créativité qui, à partir de la façon dont elle pourrait parvenir à embrasser toutes ces questions, fonderait quelque chose qui ressemblerait à ce que Tocqueville appelait les mœurs démocratiques. Sur la base de la conscience qu'une démocratie sans mœurs démocratiques, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, je crois que dans la question de la créativité, cette question-là est également impliquée. Celle d'une créativité démocratique dont on voit bien que si elle doit être à l'œuvre, elle ne peut l'être effectivement qu'à une échelle qui, à défaut d'être exclusivement locale, au moins réconcilie le global et le local. Le thème de la créativité dans les territoires me semble être, de ce point de vue, un thème particulièrement opportun et pertinent. Je vous remercie.
Merci Jean-Pierre. Je pense de cette introduction qui situe assez bien le travail que nous avons à faire pendant les deux jours, même si, évidemment, je pense qu'on ne peut pas avoir l'illusion de le mener entièrement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des interventions? Alors, toutes les séances sont enregistrées, donc je vous demanderai de prendre le micro pour intervenir. Voilà. Sinon, de toute façon, le débat reste ouvert cet après-midi. Donc,
qu'est-ce qu'on fait exactement cet après-midi, Jacques ? Parce que moi, j'ai fait une introduction, mais je ne sais pas sur quoi ça débouche.
Ben, écoutez, ce que j'allais vous proposer, c'est que Delphine Crublet, qui à la fois est ethnologue et à la fois, on peut dire, dans la territorialité, puisqu'elle appartient au Conseil régional de Picardie par ailleurs, puisse intervenir, puisqu'elle travaille précisément sur un peu la notion de territoire créatif. Et donc, elle compléterait votre intervention et peut-être permettra ainsi que l'échange se poursuive et se développe. Donc, si Delphine veut bien venir,
Oui, je reste là.
Et je vous laisse le soin, Delphine, de vous présenter un peu plus longuement que je ne l'ai fait.
Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Alors, je n'ai pas fait une présentation aussi longue que mon voisin. Donc, je vais plutôt partir de mon parcours, en fait, qui me fait aujourd'hui être là devant vous pour parler des territoires créatifs. Parce que si je peux dire, j'y suis un peu arrivée sans m'en rendre compte. Donc effectivement, j'ai une formation initiale en ethnologie. J'étais chercheur pendant 2 ans à la mission du patrimoine ethnologique à Paris. À l'issue, 2 années à l'issue desquelles j'ai choisi d'être plutôt dans l'action en reprenant des études en développement local. Et donc j'ai intégré une collectivité régionale donc, qui est celle de la région Picardie pour être chargée de développement, chargée de mission territoire précisément. Donc je suis tout de suite tombée dans la culture, en fait, bien avant la notion de territoire, c'était plutôt les artistes et la culture. Donc j'ai collaboré pendant 4 ans à la mise en place d'une politique culturelle sur un pays de 67 communes complètement rurales. On a bâti avec une petite équipe un service culturel, de la diffusion en milieu rural et des artistes sur le territoire. Forte de cette expérience-là, j'ai intégré la direction de la culture où là, j'ai mis à disposition ce savoir-faire-là sur comment construire une politique culturelle en territoire. Parallèlement à cette fonction, j'ai jamais perdu l'ethnologie qui me tenait à cœur, donc j'ai collaboré, mais en fait, tout le long de mon parcours de 12 années professionnelles, là, c'était concomitant. Alors des fois, l'ethno prenait plus de place, c'est un peu le cas aujourd'hui, parfois le développement local. Donc en fait, j'ai accompagné parallèlement à ce travail-là des équipes artistiques sur des créations en territoire, parce qu'il y a eu une grande mode à partir des années 2000, peut-être vous avez connu ça ici en Poitou-Charentes, où les artistes s'intéressaient à l'histoire locale pour en faire une création. Donc moi, j'ai collaboré sur l'histoire d'une ancienne sucrerie, donc en tant qu'ethnologue, avec une équipe artistique de metteurs en scène, écrivains. Donc, voilà, la rencontre territoriale pour moi, ça a d'abord été ça, c'est-à-dire comment un artiste s'intéresse à un territoire et fait surgir quelque chose qui n'est pas forcément conscient dans l'esprit des habitants d'ailleurs, ni des élus locaux, mais que les artistes savent très vite ressentir et parfois appuyer là où ça fait mal. Donc j'ai collaboré comme ça de l'intérieur, je dirais, sur un projet artistique. Après, j'ai fait un gros travail avec la scène nationale de Calais qui s'appelle le Chanel, que vous connaissez peut-être. Donc sur le lien entre le Chanel, les habitants et leur territoire. Et puis j'ai rencontré Mathilde van der Rusten, que vous écouterez vendredi, qui travaille au CNFPT de Dunkerque, et on a monté ensemble un projet de travail ethnologique sur les villes créatives. Donc voilà comment je raccroche le terme créatif pour moi. Et donc je fais un travail de terrain, d'observation participante, d'interview, sur plusieurs territoires qu'on a identifiés ensemble, allant du rural au très urbain. Donc je me suis intéressée à Nantes, que tout le monde connaît, à Tournefeuille, dans la banlieue toulousaine, et puis là je vais travailler bientôt, dans quelques jours, je vais partir au Havre pour rencontrer les acteurs culturels du Havre. Donc ce que moi je peux dire par rapport à la notion de créativité dans ma pratique, qui est à la fois celle d'une ethnologue essayant d'aller au plus près des acteurs et puis celle d'une personne œuvrant dans une collectivité pour accompagner les élus locaux et les acteurs à la mise en place d'une politique culturelle, enfin, ou développement de celle-ci. Moi, le constat que je fais de par les territoires dits créatifs, en tous les cas qui le revendiquent, enfin, haut et fort, la ville de Nantes le revendique, la ville de Tournefeuille aussi, je ne sais pas comment dire, mais pour moi, sur ces territoires-là, il n'y a pas créativité sans culture. C'est avant tout des villes qui savent monter une politique culturelle en bonne et due forme et travailler avec des artistes, donc avec des créateurs. Mais la première porte d'entrée, enfin la ville de Nantes est exemplaire pour ça, puisque sur la figure de proue, là, le voyage à Nantes notamment, c'est le directeur, c'est Jean Blaise, c'est l'ancien directeur de la scène nationale, c'est quelqu'un qui sait éminemment travailler avec les artistes. Après, je découvre moi dans la pratique, effectivement, ça s'ouvre sur des domaines économiques qui nous vendent, qui ont à voir avec les nouvelles technologies de la communication, etc., le design, enfin toutes ces choses que je découvre. Mais moi, j'ai le sentiment que d'abord, il y a ce lien-là et cette capacité à travailler avec des artistes et donc des créateurs. Voilà ce que je peux vous dire. Alors oui, j'ai une phrase que je voulais vous citer parce que elle exprime assez bien l'idée que j'essaye de développer moi dans ma démarche. Donc elle vient de Gilles Deleuze, de l'abécédaire, que j'ai beaucoup écouté. C'est la lettre A, A comme animal, c'est la première lettre. Et il parle de l'animal au sens du territoire. Enfin, il approche la notion de territoire, d'entrée et de sortie de territoire, de déterritorialisation également, par l'animal. Et donc il dit « Constituer un territoire, pour moi, c'est presque la naissance de l'art ». Et je me dis, moi, je suis assez convaincue de ça. C'est-à-dire que je pense que la notion de territoire, en tant que contenant, elle permet forcément la créativité. Voilà. Je ne sais pas si mon voisin est d'accord.
Je crois avoir compris le sens de vos efforts, si je puis dire, et de votre travail. Consiste au fond, à partir d'une expérience qui est en partie une expérience ethnologique en ce qui vous concerne, susciter des initiatives et des énergies à partir du champ culturel. Bon. Donc en faisant appel à des artistes, à ceux qui vivent là où.
Pas forcément. Hein.
Ah, pas voilà.
Ah, bah non, c'est d'accord. Propre des artistes.
Ah, oui, mais justement. Donc, en faisant appel à des artistes, en tout cas, dans des finalités locales. Mm. Et qui sont, si j'ai bien compris, d'une certaine manière, des finalités patrimoniales.
Oui.
Et ceci. Ça pose beaucoup de problèmes, je crois. Évidemment, c'est une entreprise qui semble tout à fait louable, entendons-nous bien. Il me semble, c'est en même temps autant de questions que je vous pose, il me semble que ce genre d'entreprise se heurte aujourd'hui, pas seulement à des difficultés, mais à une situation qui risque fort ou de dévoyer, ou de court-circuiter les perspectives ainsi poursuivies. Voici rapidement pourquoi. En premier lieu, les initiatives patrimoniales, aussi louables puissent-elles être, se situent aujourd'hui dans un contexte où le patrimoine d'abord devient une obsession paralysante. Songez simplement à ceci, que dans le budget de la culture, le budget du patrimoine est beaucoup plus important que celui de la création. Et c'est dans des proportions qu'on n'imagine pas. Donc avec toutes les implications que ça entraîne. Et en ce sens donc que de ce point de vue, il faut tenir compte d'une politique du patrimoine, qui est une politique générale, qui peut donc être paralysant de ce point de vue pour des simples questions déjà budgétaires, mais pour beaucoup d'autres. Et puis, aussi en ce sens, mais là c'est beaucoup plus confus et c'est une question à étudier, et elle l'est en ce moment par certains. Je sais que Boltanski réfléchit à ça en ce moment. À la manière dont la question du patrimoine, dans les formes qu'elle prend, s'articule à tout un ensemble de dispositifs qui entrent dans la logique du nouveau capitalisme. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où probablement on va voir se conjuguer et s'articuler les questions qui touchent le patrimoine avec des perspectives de profit pur et simple. Bon. Mais, voilà. Donc, c'est-à-dire que quand on s'intéresse à ces questions, il faut peut-être aussi penser à ça. Parce qu'il y a là des risques de paralysie et de court-circuit. Des meilleures entreprises, des meilleures intentions que l'on peut mettre en œuvre. Le deuxième point que je vois concerne aussi les aspects économiques de tout cela et concerne du même coup la créativité. Comment dire ? Clare, dans ses composantes les plus visibles, est aujourd'hui embarquée dans des logiques économiques qu'on ne soupçonne pas. Nous en avons quelques aperçus dans la connaissance que nous avons du marché de l'art. Oui. Hier encore, on parlait de la création de la Fondation Pinault à Paris. C'est un superbe bâtiment construit par l'un des plus grands architectes actuels, destiné à abriter une collection qu'on annonce déjà comme une collection absolument extraordinaire, sous l'œil de Suzanne Paget, experte en la matière, etc., etc. Les commentaires qui ont été consacrés pendant toute la journée d'hier à cette création, j'insiste sur création, à la création de cette fondation, sont tout à fait édifiants. Ils sont à la mesure, me semble-t-il, les investissements qui ont aujourd'hui lieu dans le domaine de l'art de la part des puissances de l'argent. Ne croyez pas que je suis en train d'enfourcher une sorte de canasson romantique qui consisterait à dire « Ah, l'art, c'est pas l'argent ». Non, l'art, c'est l'argent. Je ne suis pas en train de le regretter. Je n'en sais rien, je n'ai pas de désir ou d'aspiration à faire valoir. Simplement des constats. Désormais, l'art, et tout particulièrement l'art contemporain, est devenu une composante majeure, et potentiellement majeure en tout cas, de la logique du capitalisme dans sa phase financière. Bon. Et le fait que les plus grandes fortunes, Pinault, Arnault, que sais-je, etc., créer des fondations à la gloire de l'art contemporain en est un signe. Je ne suis pas en train de dire qu'ils n'aiment pas l'art, c'est que la question n'est pas là. Certainement, ils aiment l'art. Mais il y a, si vous voulez, les déclarations d'intention, l'esprit dans lequel on les fait, et puis la réalité. La réalité, c'est celle-là. Bon. Du coup, j'y vois également quelque chose qui place sous un éclairage particulier les initiatives locales. Parce que là, il ne s'agit pas de local. Là, on est dans la mondialisation. On est dans quelque chose qui s'appelle l'internationalisation de l'art et de l'argent. Et je pourrais vous en donner beaucoup d'autres exemples. Je vous en donne encore un à titre. Ce n'est pas seulement une anecdote. Il se trouve que je vis dans le milieu de la France et que je vivais encore il y a peu dans la région d'Aix-Marseille, que j'ai quittée, pas pour ces raisons, mais presque. Je connaissais depuis un certain temps, depuis les années 70-80, un domaine où on produisait du vin, un bon vin, sous l'étiquette Château Lacoste. Bon. Il y a eu, comme on sait, pendant des années, un effort qui a été fait dans ces régions pour produire un vin de qualité après des années où on produisait ce qu'on appelait vulgairement de la vinasse. J'ai appris récemment que ce domaine était devenu également un centre d'art contemporain. J'en ai parlé à des artistes que je connais autour de moi, ils ne connaissaient pas. J'y suis allé, j'ai découvert un truc absolument gigantesque, avec un parc de sculptures à faire rêver, un centre d'art contemporain confié à différents architectes, avec des projets en perspective sur la construction d'un hôtel, d'un restaurant, etc., etc. Donc un lieu destiné à la clientèle internationale. Les gens du coin ne connaissaient pas. On n'a même pas pris la peine de les informer, manifestement, puisque de toute façon, ce n'est pas ce que l'on vise. Donc il y a là un phénomène, qui est un phénomène qui correspond à la mondialisation, à l'internationalisation, de toute chose, et l'art, on est partie prenante. La question que je me posais, vous écoutant, était de savoir, bon, ceci étant admis, si on prend la mesure de ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est pourquoi je parlais tout à l'heure, je disais que on ne peut pas dissocier la question du local à la question du global, ni la question du global de la question du local. Mmh. Dans des situations comme celle-là, qu'est-il possible de faire à l'échelle locale pour à la fois produire des circonstances et des conditions d'énergie qui n'existent pas, y compris sur le plan économique, sans faire les frais ou sans purement et simplement servir ces logiques globales et internationales qui, évidemment, n'en ont absolument que faire. Et je me demandais justement, c'est pour ça que les artistes, faut-il, c'est une question simple, question bête, faut-il faire appel à des artistes locaux ou des artistes
Les deux.
Moi, ce que je constate, vous voyez, pensez à un autre exemple. On a créé il y a un an maintenant à Marseille un musée qui s'appelle le MUCEM, qui est une très belle chose. C'est un très beau musée. Et comme dans tous les musées maintenant, il faut qu'il y ait de l'animation. Il faut exposer des trucs, il faut créer des événements. Donc on crée des événements. Des séries de conférences, pas seulement des expositions, etc. Et qu'est-ce que ça implique? Quels en sont les effets sur le plan local? Les effets sur le plan local sont purement et simplement ceux une satisfaction générale en raison des possibilités que cela donne d'assister à des spectacles, etc., etc. Mais est-ce que des énergies locales, que ce soit dans le champ artistique ou ailleurs, ont été vraiment mobilisées, impliquées dans ces projets? La réponse est non.
Oui.
Donc c'est vraiment une question. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette question.
Précisément sur le cas de Marseille, Marseille 2013, il y a eu quand même au niveau local justement des personnes qui se sont élevées sur cette question-là, le fait d'avoir été peu ou prou mis de côté. Mais moi je pense que c'est difficile de parler de la culture en ne s'intéressant qu'à ces villes-là. Parce que Lyon, Marseille, Nantes, Lille, ce sont des villes qui aujourd'hui ne parlent plus à la France, mais elles se parlent entre elles d'un niveau européen. Et la culture participe, la culture, les artistes, l'art contemporain, participent complètement à ça. C'est-à-dire qu'elles sont dans une course qui, de toute façon, les éloigne de enfin, je ne sais pas comment dire. De toute façon, elles ont pris le TGV et puis nous, on est restés sur le quai, vraiment. Donc... n'empêche que moi je pense qu'elles peuvent le prendre le TGV parce qu'elles avaient structuré quelque chose avant avec leurs acteurs locaux. En tous les cas, Nantes essaye aujourd'hui de revenir vers...
Parce que la situation n'est pas la même partout.
Non, elle n'est pas la même partout. Alors, comparaison n'est pas raison, mais ça aide parfois à comprendre. Oui.
Oui, merci de votre intervention, de vos interventions. Oui, je voudrais juste mettre un bémol parce que je suis d'Aix-Marseille et j'ai participé en regard de chercheur à l'opération des quartiers créatifs.
D'accord.
Donc effectivement, il y avait le MUCEM, donc opération peut-être un peu élitiste, j'en conviens. Mais il y a eu toute cette démarche donc dans le cadre de Marseille, capitale européenne de la culture. Qui a fait appel à plein d'initiatives locales, à mobiliser des artistes pas connus, des gens qui sont pas dans l'œuvre, mais qui sont plutôt dans la recherche du bien-être, dans la diffusion, dans le faire plaisir. Et cette opération quartier créatif qu'on regardait avec un peu de réticence, disant il y a peut-être beaucoup d'argent qui est mis là-dedans, quoi ça va servir. Mais finalement, ça a créé des dynamiques de quartier. Alors, il faudra voir après dans le temps comment tout ça va survivre. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des vraies réflexions qui se sont développées, qui étaient déjà en émergence, mais qui se sont renforcées autour de l'idée de fabrique citoyenne de la ville. C'est-à-dire que ça a amené les gens à sortir de chez eux, à voir qu'ils pouvaient participer, expérimenter plein de petites situations, jouer le rôle d'acteur. Des gens qui ne se connaissaient pas se sont rencontrés autour de la cuisine, notamment. Et je trouve qu'il y a eu une richesse social autour de cette opération-là qu'on ne sait pas mesurer. Mmh. Parce qu'effectivement, on n'a pas les outils, ça ne se quantifie pas en termes monétaires. Mais malgré tout, il y a eu du vrai mouvement social. Alors, est-ce que tout ça va produire la solidarité, va produire la vraie participation citoyenne ? Tout ça reste à observer. Mais je pense que, alors, c'est de la culture, mais c'est pas la politique culturelle élitiste. C'est la politique du bottom-up. Et puis, après, ben voilà, il faut que la mayonnaise, elle prenne. Alors, je sais pas, voilà. Mais bon, voilà. On n'est pas que sur des villes où on est que sur des grandes opérations. Marseille est un cas, je pense, où il y a aussi beaucoup de cultures de quartier. Saint-Provence est plus élitiste.
Oui. Puis beaucoup, il y a beaucoup d'acteurs culturels à Marseille aussi. Enfin, beaucoup de créateurs.
Absolument.
Il voilà, y avait un tissu.
Je voudrais alors mon tour apporter
un bémol.
Parce que je suis désolé, je ne suis pas tellement d'accord avec vous. Je comprends bien, enfin je sais qu'il y a toutes sortes d'initiatives, il y a eu toutes sortes d'initiatives en Marseille qui vont dans le sens que vous dites. Mais d'abord, sur le plan politique local, c'est cadenassé, d'une part, ce qui n'est pas négligeable. Donc je ne crois pas qu'il y ait eu une politique culturelle émanant de la ville, par exemple, qui aille vraiment dans ce sens. Mais peut-être que je me trompe. Mais de toute façon, ça ne remet pas en question les configurations beaucoup plus générales dont je parlais tout à l'heure. Et je voudrais vous poser une question. Vous habitez Marseille ?
Non, j'habite Aix.
Et voilà. Eh bien, chère madame, si vous viviez à Marseille, vous verriez que ce n'est pas tout à fait comme ça. Je crois qu'il faut vivre à Marseille pour se rendre compte de la situation réelle dans laquelle se trouve cette ville, de ce que ça veut dire vivre à Marseille, de ce que ça veut dire par exemple vivre dans le centre de Marseille, de ce que signifie fréquenter de près les associations, voir les obstacles auxquels ils se heurtent en permanence de la part de leurs sources de financement, parce qu'il leur faut bien des sources de financement, les budgets des associations et parfois les plus importantes. Je pense à une que je fréquente particulièrement, qui est le CIPM, a été diminué dans des proportions tout à fait considérables. Donc, qu'il y ait eu des processus qui se sont enclenchés à partir d'initiatives locales, je crois qu'en effet, sur le plan associatif, mais il y a une situation qui me semble beaucoup plus difficile que ça. Bon. Mais on n'est pas là pour parler de Marseille, excusez-moi, c'est simplement parce que je me disais que le fait de vivre à Marseille permet d'avoir une vision un petit peu différente de celle-là. Je ne dis pas qu'elle est inexacte, bien sûr. Et voilà.
Je me permettrai de rajouter deux choses. Déjà, remettre dans un contexte institutionnel qui est quand même celui de la constitution de la métropole Marseille-Aix, enfin, qui va, voilà, à mon sens, pour laquelle Marseille 2013 a quand même permis, et moi je l'ai vécu sur une expérience territoriale, c'est-à-dire parfois la culture est le premier niveau du faire ensemble et peut nous amener vers une forme d'intercommunalité et différence qui va être le cas, enfin, en tous les cas, ce qui était l'ambition. Des élus d'Aix-Marseille. Par rapport à l'exemple que vous citiez tout à l'heure, ça m'a fait penser à, parce que j'ai travaillé également sur Dunkerque. Alors il faut savoir que la région Nord-Pas-de-Calais avait adapté un petit peu ce principe des capitales de la culture en finançant pour certaines, enfin une ville par an, en finançant largement avec l'agglomération choisi une espèce de mini-capitale de la culture à la sauce Nord-Pas-de-Calais, ce qui a été le cas de Dunkerque en 2013. C'était foisonnant, il y avait énormément de choses tout le long de l'année, avec un travail très poussé, je dirais, avec les maisons de quartier, enfin, vraiment avec une couleur très citoyenne. En fait, vraiment, les habitants ont été largement impliqués. Et aujourd'hui, 6 mois après, ils sont dans le constat, le soufflet retombe, mais alors il y a un désir incroyable de la part des gens. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a créé ce type d'événement ? Et donc là, on retombe dans quoi ? On retombe dans la nécessité de reconstruire une politique publique qui met en réseau les acteurs, qui structure les choses et qui est tout autant nécessaire. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une mode, là, c'est incontestable, de ces temps forts qui se ressemblent un peu tous, hein, d'ailleurs, si on les regarde entre Lille 2004, le devenir de ce qui s'est fait à Lille après, et puis Marseille 2013, même en termes de communication, ce sont les mêmes codes, quoi. Sauf que ça crée du désir, donc il faut aussi faire quelque chose.
Oui, bonsoir, Pierre Perrault. Je suis conseiller scientifique ici à l'espace Manès France. On avait initié dans un premier programme quelque chose qui s'était appelé territoire culturel à l'espace Manès France, sur un groupe qui réfléchissait sur les actions hors du territoire de Manès France, mais plus sur la région. Et on avait rencontré, lors d'une réunion qui a eu lieu pas très loin d'ailleurs, je crois que c'était à La Vosso, sous une forme un petit peu différente, ce que vous avez décrit tout à l'heure comme les politiques culturelles, comme cette espèce de préalable, mais sous l'angle de, aujourd'hui, grosso modo, les politiques culturelles seraient, en tout cas c'était une des hypothèses qui avait été proposée dans, dans cette réunion, c'était ce que les églises ne sont plus, d'une certaine façon, hein, une façon de faire du commun, à partir de la rencontre à la fois hédoniste, celle du loisir, celle de la découverte, celle de la surprise, mais en même temps d'une surprise qui ne serait pas simplement un loisir créatif, comme on en parle aussi, ou simplement une activité, mais quelque chose qui pourrait mettre en mouvement, qui pourrait mettre en décalage. Alors ma question, c'était une question, enfin, j'en aurais deux, l'une pour vous, l'autre pour Monsieur Cometti. Est-ce que les politiques culturelles dont vous parlez, est-ce que finalement vous les décriviez comme étant un préalable, mais est-ce qu'elles n'ont pas évolué, est-ce qu'elles n'ont pas basculé, passant d'une dimension qui était dans les années 80 encore une dimension d'initiation à un art qui aurait été grand et qu'il faudrait démocratiser, à justement quelque chose qui ne serait plus cet effort de démocratisation, mais plutôt un effort de partager des choses ensemble, quelle qu'elle soit, d'une certaine façon, avec de l'artiste local et avec de l'artiste extérieur, dans une sorte d'emballage qui serait à monter et à faire évoluer en permanence pour pas qu'il soit usé, quoi. Alors ça, c'est une question pour vous. L'autre question, c'était celle autour de, justement, cette espèce de question des échelles et de ce que vous disiez du rapport entre... Alors c'est une question plus pour Monsieur Cometti. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit... J'ai lu aussi le livre de Boltanski et Chapelleau et j'ai l'impression qu'en fait, contrairement à leur thèse, moi j'aurais tendance à renverser. Je n'ai pas l'impression que le capitalisme soit générateur dans cette affaire, j'ai plutôt l'impression qu'il est suiveur. Si on voit exploser aujourd'hui, à la suite de l'effondrement de toute une série de religions, y compris de religions laïques, qu'ont pu être à un moment donné le communisme ou même la politique, est-ce que l'individu tel qu'il se présente aujourd'hui, avec des changements d'échelle assez incroyables, on voit bien qu'on passe de communes centres à des agglomérations, on passe de l'Europe, enfin de nations à des continents fédérés ou en tout cas à tendance fédéraliste, dans quelque chose qui est devenu international, mais parce que d'une certaine façon les flux se sont imposés. Est-ce que là-dedans on n'a pas la nécessité autour d'un individu créatif de retrouver une figure qui soit une figure qui ne soit pas bâtarde, qui ne soit pas simplement basse, et qu'on ait besoin, autour de la créativité, de quelque chose auquel le capitalisme se raccroche, mais qui soit préalable à lui. Benjamin disait à un moment donné, je crois, que grosso modo, la culture, c'est toujours un peu un pas de côté vis-à-vis de ce que peut être le capitalisme. Est-ce que là, on n'aurait pas fait ce pas de côté un peu avant, et là, il y aurait une tentative de rattrapage par Pinault, par Kuntz, par tous les autres, par Warhol peut-être, et qu'on serait juste à la poursuite d'une sorte de désolidarisation des grands collectifs et qu'on essaierait quand même aujourd'hui. Alors mes deux questions se rejoignent un peu, c'est-à-dire que en quoi les politiques culturelles sont pas un vecteur de ce maillage d'individus qui seraient plus maillés ou qui se mailleraient difficilement.
Delphine.
Oui, donc moi je pense que c'est aussi une question d'échelle. C'est-à-dire qu'évidemment si on pense à Nantes... la question de l'habitant, de la démocratisation, de la médiation, enfin, on peut plus la poser. On est plutôt dans une logique de tourisme culturel. Voilà, c'est ce qui rejoint ce que je disais d'abord, enfin, tout à l'heure sur la notion de grosse métropole. Ça devient une énorme carte de visite, quoi. Il s'agit de se distinguer. Quand on est sur des échelles plus petites, par exemple Tournefeuille, qui est dans la banlieue de Toulouse, qui aurait pu aussi faire le choix de se dire oh, « bah, Toulouse est à 15 km, je n'ai pas besoin de travailler la culture pour mon territoire », eux, l'habitant est au cœur complètement de leur politique, c'est-à-dire il y a plusieurs lieux institués et labellisés sur la commune. c'est le cahier des charges de la mairie, se dire ok, on vous finance, mais l'habitant doit être au cœur. Donc ça se traduit par des ateliers, par des spectacles qui prennent en charge des groupes d'habitants, etc. C'est au cœur de la démarche. Si on est sur une échelle rurale, si on oublie l'habitant, enfin c'est pour ça que moi l'expérience que j'ai eue en milieu rural, c'est extrêmement difficile. Si vous oubliez l'habitant, mais c'est pas possible de travailler, c'est pas possible. Alors les salles sont vides, 3, 4, 5 personnes dans la salle. Donc là, la médiation, elle est hyper nécessaire. Et puis après, d'où le lien artiste-territoire que moi je fais, c'est-à-dire de cette rencontre-là qui peut être vertueuse, mais qui est aussi difficile, parce que les artistes s'intéressant à une histoire locale, des fois ça met à jour des choses enfouies. Enfin, c'est pas simple. Mais la question du ce que j'appelle moi le fil rouge, c'est-à-dire quand on est en capacité d'identifier un fil rouge qui va parler aux habitants, aux artistes, tout se maille. Extraordinairement, tout se maille. Donc voilà, je pense que c'est une question d'échelle. Une grosse ville, c'est pour ça que tout n'est pas comparable, quoi. Et l'habitant, moi, je pense qu'il faut qu'il soit au cœur de tout cela. C'est ce qui est passionnant, l'humain aussi.
Jean-Pierre. Oui, vous abordez beaucoup de choses dans vos questions. Moi, je serais tenté de dire que, de toute façon, il y a deux pôles, ou deux faces de la question. Celle qui retient votre attention, vous dites l'habitant, etc. Donc, ça veut dire les questions qu'on peut se poser d'un point de vue quasi politique. Est-ce que, lorsqu'on s'intéresse à des questions qui touchent au local, territoire, la ville, peu importe, et ce que l'on pourrait y concevoir sous les espèces d'une créativité, pour reprendre les termes qui nous réunissent, à quoi doit-on être sensible? Quelles sont les finalités qu'on doit poursuivre, les moyens qu'on peut essayer de mettre en œuvre afin de produire quelque chose de plus dans l'espace démocratique? Donc il y a des questions qui touchent à la démocratie, tout simplement. Mon sentiment, c'est que ces questions, qui me semblent par les plus importantes, mais bon, c'est que ces questions sont en but constamment à quelque chose qui excède les interrogations qu'on peut avoir à ce niveau et qui est d'ordre à la fois global et économique. Et dont j'ai suggéré tout à l'heure que l'art était partie prenante. Bon. Ces questions, ces soucis, enfin ces soucis et cette logique entrent en conflit, je crois. Et elles entrent en conflit parce qu'en effet, quelque chose a changé. Vous faisiez allusion à des changements. Quelque chose a changé entre les initiatives prises au lendemain de la guerre pour créer, par exemple, des maisons de la culture, la phase Malraux, disons, et puis aujourd'hui, la phase Pinault. Entre la phase Malraux et la phase Pinault, on a changé de monde. On a changé de monde. Et ça n'est pas simplement que d'autres intérêts ont vu le jour qui investissent dans l'art et dans la culture, c'est que ce qui s'investit dans l'art et dans la culture menace les potentialités démocratiques. C'est mon sentiment. Donc, le changement, oui, ça a changé, mais ça a changé dans ce sens-là, et de telle façon que nous sommes face à des situations nouvelles, à des problèmes nouveaux, selon, justement, ce que nous privilégions. S'agissant de Boltanski, est-ce que ce qu'ils ont mis en évidence dans ce livre, qui me semble tout de même intéressant et important, n'est-ce pas, témoigne du fait ou de la faculté de la part des managers, des grands managers, de suivre ou d'épouser, etc. Oui, peut-être, peut-être. Mais si c'est le cas, c'est de toute façon dans un contexte et par rapport à des intérêts qui demandent à être pris en considération. Quels sont ces intérêts. Pourquoi est-ce que l'entreprise se veut aujourd'hui créative et pas seulement productive. Qu'est-ce qui a changé de ce point de vue ? Il s'agit, il est bien évident que les entreprises dont on parle, la logique du management dont il s'agit, ne concerne pas l'industrie. Elle concerne les nouvelles entreprises. Elle concerne l'économie d'aujourd'hui, celle qui s'est accompagnée de la désindustrialisation, c'est-à-dire plus exactement de l'industrialisation exportée. Donc, une population qui n'est plus une population d'ouvriers, c'est une population de cadres moyens, de cadres supérieurs, c'est-à-dire une population qui a des pratiques, qui s'est fortement individualisée pour entrer dans une perspective de rivalité, de concurrence à l'intérieur même de l'entreprise, et qui par ailleurs a des appétits en matière de culture. Je veux dire ceci, qu'il y a une chose aussi dont on n'a peut-être pas parlé ou pas suffisamment, c'est que là où des efforts sont faits en vue d'un développement culturel, les effets peuvent en être doubles. Ils peuvent être concurrents. Il y a des effets de qualité démocratique, il peut y en avoir. Mais il y a aussi des effets bénéfiques pour les attentes qui sont celles de ces entreprises dont nous parlons. On sait très bien que là où un développement culturel a eu lieu, eh bien, des entreprises se sont implantées. Donc les entreprises aujourd'hui, en raison de ce qu'elles sont devenues, en raison de la population qu'elles mobilisent, ont besoin d'un cadre de vie. La culture est devenue un cadre de vie. Et donc, lorsque des efforts sont faits de la part des élus, par exemple, sur le plan local, c'est aussi dans cette perspective. À Marseille, c'est parfaitement clair. Il s'agit d'opter ou bien pour le tourisme, ou bien pour des implantations d'entreprises attentives à ce qu'on offre sur le plan culturel. Donc, ces choses-là sont étroitement liés, intriqués, et c'est très difficile de faire la part, finalement, du type de gain qu'on peut en attendre selon qu'on est attentif à des gains de type humain et démocratique ou à des gains économiques, avec des retombées économiques et qui, dans une période de fort chômage, ne sont pas négligeables, parce que dans tout cela, il faut encore parler du chômage. C'est-à-dire que on ne peut pas aborder ces questions comme si on les abordait dans une période de croissance économique, dans une période florissante. Non, nous les abordons, nous parlons d'art et de culture dans une période où le nombre de chômeurs croît tous les jours. Donc c'est aussi l'un des aspects de la situation, l'une des choses qui penche dans la balance. C'est pour ça que c'est si compliqué.
Après, moi, je me demande personnellement si ça sera forcément l'avenir, c'est-à-dire de tout institutionnaliser de cette façon-là, y compris pour les artistes. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Hein. Si on gomme au fur et à mesure des friches, des endroits où tout était un peu possible pour des équipes artistiques, si tout s'institutionnalise, tout se lisse,
excusez-moi de vous interrompre, mais effectivement, tout se lisse. Les friches font désormais partie du paysage. C'est-à-dire que nous sommes, ça c'est une sorte de diagnostic que je propose, nous sommes actuellement, en ce qui concerne les rapports de l'art, de la culture, de l'économie, dans une période de lissage. Plus exactement, de lissage. Dans une période de transitivité généralisée. N'est-ce pas ? Il est tout à fait étonnant de voir comment les lieux qui paraissaient les plus impropres, les plus étrangers à l'art et à la culture, viennent prendre place dans ce maillage dont vous parliez. Je donne un exemple encore, parce qu'il faut donner des exemples. À Avignon, la collection Lambert, qui s'est appropriée l'école d'art, soit dit en passant, donc qui a fichu dehors l'école d'art d'Avignon, de ses locaux, pour s'installer dans de nouveaux locaux, a entrepris des travaux qui l'obligent à exposer ailleurs. Donc la collection Lambert a investi pour une exposition, je ne sais pas si elle dure encore, enfin, qui a commencé avec le Festival d'Avignon, la prison, la maison d'arrêt d'Avignon. Si vous lisez la présentation de la chose, vous allez trouver ça tout à fait extraordinaire, parce que c'est présenté comme une sorte d'acte de bravoure, n'est-ce pas ? Qu'on puisse présenter de l'art contemporain dans un lieu comme une ancienne prison, la collection Lambert, enfin les responsables de la collection Lambert présentent ça comme une sorte d'acte de bravoure et d'héroïsme. Bon. Donc il y a aussi ça, c'est cet aspect des choses. Et puis, vous pouvez, si c'est encore le cas, aller voir cette exposition. Et vous apercevez que tout ce que vous avez pu lire à ce sujet, y compris de la part de ceux qui s'en font les promoteurs, est tout à fait inexact. Qu'il est tout à fait possible aujourd'hui de présenter une collection d'art contemporain dans un lieu comme une ancienne maison portée d'arrêt sans que ça change quoi que ce soit à quoi que ce soit. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait, dont on a pu penser que ça produise des sortes de hiatus, n'est-ce pas, de décalage éventuellement violent. Non, il n'existe pas. Donc ça veut dire que le tissu social est en train de s'ouvrir à toutes sortes de passages, de transitions, qui ne se heurtent plus à aucun obstacle. Cet espace social, économique, culturel et artistique homogène, c'est celui dans lequel, je crois, nous sommes entrés. Et évidemment, ça change aussi les perspectives.
Oui, bonjour à tous. Alors, ça m'interpelle à plusieurs titres, vos discussions, puisque je suis directrice de l'action culturelle du département de la Vienne, donc Agnès Bozek. Voilà, donc je suis concernée à double titre, et l'échelle territoriale et la créativité, qui est effectivement dans le cœur de mon métier. Et de mes envies. Et du coup, je vois différents niveaux en fait dans ces débats. Et j'ai plusieurs interpellations. Le premier niveau, c'est que la créativité, pour moi, quand on l'associe à un territoire, déjà, c'est l'enserrer dans une norme réductrice. La créativité dépasse l'échelle de n'importe quel territoire, hein, quel que soit ce qu'on appelle un territoire. Comme la créativité dépasse d'ailleurs la création artistique. Donc la création artistique, pour moi, c'est une chose. La créativité va au-delà de la création artistique. Il n'y a pas que la créativité, c'est bien au-delà de ça. Donc ça, c'était la première chose qui m'interpellait. Et pour moi, la créativité n'a pas besoin d'un cadre. Que les politiques publiques soient là, c'est très très bien. Mais la créativité existe bien avant même que des pouvoirs publics s'en soient emparés. Voilà. C'est par essence même, ça fait partie, je dirais, du commun d'un individu. Il y a des individus, effectivement, qui ont cette capacité à créer. Et pour moi, la création en elle-même n'attend aucun bénéfice. C'est-à-dire que c'est une création qui a son essence propre et son but propre. Ensuite, qu'une collectivité, qu'une population, qu'un groupe de population ou qu'un individu s'en empare pour en faire quelque chose, pour véhiculer une image, qu'une entreprise se dise créative. Pour moi, c'est instrumentaliser la culture, l'art, et en valoriser un bénéfice pour autre chose. Mais en soi, la création ne cherche aucun bénéfice. Elle existe. Et c'est nous à côté qui exploitons finalement cette création et en faisant une traduction suivant notre domaine d'intervention. Ça, c'est une réflexion personnelle. Concernant les collectivités territoriales, il y a quand même un contexte très particulier, c'est que le montage même des politiques publiques fait que généralement les créateurs répondent à des appels à projets. Ils sont donc soumis à un cadre et à un objectif qui est déjà conditionné et qui est décidé par d'autres qui sont des pouvoirs politiques, des groupes de concertation et d'influence qui rassemblent un certain nombre de personnes. Et d'ailleurs, on le voit bien, dans les évolutions des politiques culturelles, on subit encore l'influence des choix étatiques en la matière, avec effectivement, comme vous l'avez rappelé, les époques Malraux, les établissements créés dans les centres, et qui aujourd'hui, c'est une tendance qui subsiste, c'est-à-dire que toutes les communes cherchent à avoir leur salle culturelle, un temple de la culture, etc. ça, c'est, ça reste toujours porté. Aujourd'hui, effectivement, il y a d'autres expériences qui sont menées, comme les friches. Il y a des créateurs qui s'emparent de lieux pour monter des opérations, des événements créatifs, mais en déconnexion de politiques publiques, c'est-à-dire qui ne répondent pas à une demande ou à, comment dire ça, j'essaie de dire ça de manière correcte, à une commande, merci, je cherchais le mot. Et c'est là où, effectivement, on arrive à un instant où ça devient un peu plus compliqué, c'est-à-dire que, alors moi, je suis opérateur territorial, qui est-ce que je suis à même de juger de ce qui va être de la créativité pure? Est-ce que c'est mon rôle? Moi, je suis un accompagnateur et un facilitateur pour ces gens-là. Est-ce que je suis en capacité de les identifier? Je suis très humble sur la question, je n'en suis pas sûre, hein, mais je ne sais pas si d'autres le sont mieux que moi. La créativité nous dépasse. Il y a eu des créations par le passé qui n'avaient aucune légitimité à leur époque et qui, dans le temps, aujourd'hui, sont valorisées à ce titre-là et identifiées à ce titre-là. Donc c'est un petit peu particulier. Voilà. Donc je voulais quand même signifier ce principe de commande parce que du coup, c'est une création qui est encadrée et par laquelle on va chercher un bénéfice, pour le coup. C'est-à-dire que pour une collectivité, le bénéfice, c'est le bien vivre ensemble, c'est la paix sociale, c'est l'image du territoire, c'est l'image de la collectivité, c'est le développement de l'emploi culturel. Voilà. Derrière, il y a tout un tas d'attentes qui sont véhiculées. Donc, pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. C'est pour ça que ces deux thématiques regroupées, j'étais intéressée d'écouter ces débats, parce que c'est vraiment pour moi deux choses totalement différentes, voilà, qui sont vraiment à mettre en parallèle. Merci.
Oui, allez-y. Pardon.
Assez rapidement, si oui, on peut, pour quand? Parce que je crois que vous avez un train, Delphine, et puis je voudrais que Brigitte vient présenter le MOOC, mais
non, simplement dire que moi je pense qu'il y a plus d'ouverture à la création dans la commande artistique que dans les appels à projets, qui sont quand même devenus la grande mode et qui sont vertigineux pour les artistes, parce que n'oublions pas que la compétence est partagée, que tout le monde peut financer et qu'il faut rentrer dans toutes les cases, ce qui est quand même dur. Enfin, là où la question de la création est quand même à se reposer.
Un mot. Et merci à Delphine.
Ben, un mot et un seul, ou presque, mais c'est dommage parce que je me sens vraiment en désaccord avec vous, mais comme vous avez dû vous sentir en désaccord avec moi. C'est une drôle d'idée que vous avez exprimée initialement, en laissant entendre que finalement la créativité, elle existe, elle est là. Il suffit de la laisser se développer. C'est l'idéologie typique de ce qu'on appelait le laisser-faire en économie. Est-ce que vous croyez vraiment que ce qu'on appelle créativité... Moi, je suis un peu embarrassé avec le mot. Hein, vous l'avez peut-être remarqué depuis le début, mais je l'adopte puisque c'est la règle dans notre débat. Est-ce que vous pensez que les capacités créatrices ou créatives des individus sont déposées en chacun, à l'état naturel, ne demandant qu'à s'épanouir, et rencontrons tout au plus des obstacles sur ce chemin? Est-ce qu'il faut vraiment penser ça? Ou bien est-ce qu'il ne faut pas plutôt penser que ces capacités-là, et qu'ils ne sont pas simplement, en effet, celles qu'on rencontre chez des artistes, ça c'est clair, que ces capacités-là, elles n'éclosent pas toutes seules, pas, qu'elles ne sont même pas déposées en chacun de nous, pas, qu'elles sont le produit de conditions, de circonstances qui sont essentiellement sociales. C'est ça le débat. Parce que si, effectivement, elles existent in nucleo, si elles existent en chacun de nous, n'est-ce pas, alors on peut se demander à quoi bon avoir des politiques de ce genre. À quoi ça sert, finalement? Alors, vous avez dit, pour terminer, vous avez spécifié le sens de votre mission, me semble-t-il, puisque vous avez une mission à ce sujet, des missions, en disant, ben, finalement, il s'agit de les accueillir, de faire en sorte qu'on en bénéficie à différentes... Bon, certes, on peut toujours dire, en effet, au fond, telle est la mission, la fonction des institutions qui visent à susciter, encourager, éventuellement encadrer la créativité des individus. Mais je souligne que c'est une vision des choses qui est typique de la confiance dans l'individu qui actuellement fait faillite de tous les côtés. Mais c'est une philosophie. Ça s'appelle l'individualisme. Ça s'appelle aussi le libéralisme. Et c'est une discussion qui est une discussion de fond que nous ne pouvons pas avoir, évidemment, en quelques minutes. Mais là, nous sommes vraiment complètement en désaccord. Voilà.
Bien, je vous propose, non pas de vous mettre d'accord, mais de demander à Brigitte Ollier de Boucaud, donc, qui est de Bordeaux, qui va se présenter, je lui laisserai le soin, de nous présenter quelque chose un peu en décalage, mais on est quand même dans le sujet, puisque Jean-Pierre Cometti en a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si on dit MOOC, MOOC, vous préciserez, et je vous laisse le soin.
Je ne sais pas non plus. Bonjour à toutes et à tous. Je suis dirigeante d'une entreprise qui s'appelle Atelier Coaching et Créativité, et en même temps, je suis représentante d'une antenne régionale de Créa France, qui est l'association française pour le développement de la créativité, à Bordeaux, dans la région donc Aquitaine. Et dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai été amenée à, il y a peu de temps, à créer donc un MOOC ou un MOOC. Effectivement, il y a deux façons de le dire. Ça veut dire Massive Open Online Courses. Et c'est en fait un mode d'enseignement à distance qui est ouvert, qui est massif, donc qui est ouvert largement à tous les publics. C'est un petit peu de l'e-learning en fait, mais amélioré, on va dire, avec un niveau, un côté un peu plus transmédia que l'e-learning. Et donc j'ai effectivement créé ce MOOC sur la créativité, qui est le premier à être sorti là il y a un mois, sur le sujet de la créativité pure, on va dire. L'idée de... Puis entre guillemets, excusez-moi, je ne suis pas philosophe, donc je ne vais pas avoir utiliser les mêmes mots, le même vocabulaire que vous. Mais en fait, l'idée, c'est... Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, en tant que professionnelle, j'ai été souvent confrontée à cette question de qu'est-ce que c'est que la créativité. Et j'ai été confrontée au fait qu'il y avait énormément de confusion sur une définition probable de ce sujet-là. Parce qu'il y a une confusion entre créativité et innovation déjà, c'est-à-dire que tout le monde parle de tous ces sujets-là finalement. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle, ce que Isabelle Jacob, qui est présidente de Créa France, qui sera là demain, appelle le creative washing. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui se disent sur ces sujets-là et finalement il y a beaucoup de gens qui ne savent pas finalement même la différence entre créativité et innovation, ce qui peut être légitime, hein, mais l'idée du MOOC, c'était aussi d'essayer de diffuser un peu plus de connaissances sur ces sujets-là. Donc créativité et innovation, créativité et création artistique, créativité et design, pour justement essayer d'aller un petit peu plus loin et de sortir de ce que moi je pouvais en tout cas, ce que je peux en tout cas constater et voir, c'est le fait d'utiliser, comme vous le dites, la créativité comme un outil en entreprise. Et moi, l'envie que j'avais, c'était vraiment de revenir au fait que la créativité, c'est une qualité, évidemment, une compétence, une qualité, une capacité à être, qui, pour moi, en tout cas, fait partie de tout le monde, de chacun. Chacun a cette capacité qu'elle peut développer. L'être humain, par essence, est créatif, parce que c'est pour ça, je pense, qu'on a pu s'adapter et être présent et être toujours là aujourd'hui. Donc, je suis revenue un petit peu aux origines aussi de la créativité, justement, dans ce MOOC. Alors, un MOOC, c'est une formation ouverte, sachant qu'il y a à la fois de la théorie, entre guillemets, sachant que c'est très ouvert et que c'est ouvert à des publics, là en l'occurrence, qui sont des publics à la fois d'étudiants, puisque c'était une demande qui était faite par un groupement d'écoles supérieures, qui s'appelle IONIS. Donc il y a des écoles type LISEG, IARTSUP, EPITEC, EPITA, donc des écoles dans différents domaines. Et école privée, et ouvert également à un public beaucoup plus large. Donc, une cible qui était quand même très 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 importante. L'idée, c'est donc à la fois d'avoir de la théorie, mais aussi des témoignages de professionnels. Donc la volonté que j'ai eue aussi, c'est de montrer que la créativité, ce n'est pas que dans le domaine du design, de la communication et du marketing, puisque là, c'était à visée professionnelle, hein, là, dans ce cadre-là, mais que la créativité, elle était partout. Et justement, j'ai fait témoigner des gens qui montent ou qui ont monté des espaces de créativité ou des services créativité dans des entreprises qui peuvent paraître un peu improbables, comme par exemple le CEA qui, il y a 10 ans, a monté un espace créativité et qui travaille avec des méthodes de créativité pour faire de la recherche et du développement. Donc, qui est assez novateur. Ensuite, des personnes qui utilisent la créativité pour justement développer l'intelligence collective dans les entreprises, puisque l'idée, c'est que la créativité, ça booste le collectif et que ça aide justement les personnes à communiquer de façon plus authentique. Ça peut être un espace dans les entreprises qui permet justement aux émotions de s'exprimer, ce qui est un espace qui n'est pas toujours, même pas souvent présent justement dans les organisations. Sachant que toute la question, c'était, et c'est aussi, comment faire pour que la créativité ne soit pas justement juste un outil, mais que ce soit quand même intégré de façon plus large. Parce qu'un outil, ça a toutes ses limites, et ça justement limite, en tout cas à mon sens, toute la portée que peut avoir la créativité et tout le décadrage que peut apporter la créativité. Donc du coup, le MOOC va au-delà de cet aspect-là, et j'ai tenté, en tout cas j'ai cherché à faire en sorte que on ratisse de façon un petit peu large le sujet, on va dire, de façon à ce que des outils soient proposés, mais qu'il n'y ait pas, je dirais, un seul outil et un seul processus. Parce que c'est vrai que la créativité, quand on la met en boîte, elle perd un peu de sa puissance. Voilà. Bon, voilà, ça c'est une question après de méthodologie et d'approche, hein, tout le monde n'a pas la même, mais je constatais quand même que dans le domaine justement entrepreneurial et dans les entreprises, il y avait cette capacité à l'utiliser comme un outil, alors que voilà, pour moi c'est autre chose, c'est de l'humain avant tout, et c'est une capacité à apprendre, à changer, à intégrer le changement, et que ça, c'est vertueux parce que ça permet justement... aussi aux personnes dans les entreprises de ne pas laisser une partie de leur être à l'extérieur de l'entreprise. C'est aussi une approche qui est systémique parce que on ne peut pas intégrer la créativité uniquement par des méthodes. C'est une approche qui demande à faire un travail au niveau de l'organisation, de l'identité et du management, évidemment. Alors à ce titre, j'ai fait effectivement intervenir des personnes de Créa France au sein de ce MOOC aussi, et Jackie Daniel qui a bien voulu témoigner pour créativité et territoire, pour montrer la diversité justement des approches.
Merci, je crois qu'il y a une question.
Oui, effectivement, Paul Vermeulen, je suis l'auteur d'un livre dont je parlerai brièvement demain, il s'appelle « Le temps de la métropole ». C'est en fait une enquête que j'ai menée depuis une vingtaine d'années, grosso modo, dans une quarantaine de métropoles européennes. Je ne parle pas des villes hors de l'Europe, bien sûr. Avec la question de départ qui est de dire pourquoi cite-t-on toujours les mêmes villes sur les marges du podium ? Pourquoi cite-t-on Copenhague, Barcelone, Bilbao, Turin, Milan, Nantes aussi, enfin des villes françaises, hein, existe aussi, Hambourg, que sais-je encore ? Et à travers l'ensemble des investigations que j'avais menées, que j'ai menées, que je continue à mener, finalement, il y a quatre valeurs. Je m'expliquerai demain sur qu'est-ce que j'entends par ces valeurs, en présence d'Edgar Morin, ce qui me fera plaisir, évidemment, qui sont à la base de ces pratiques. Une de ces valeurs, c'est précisément la créativité. Et la créativité, pourquoi ? Je pense que M. Cometti a raison, et là, jusque-là, je partage son point de vue, après ça, on diffère, sur le fait que c'est interpellant de se poser la question, pourquoi parle-t-on aujourd'hui de création et non plus de production ? Je pense qu'on est vraiment dans une situation, et je lui laisserai forcément le bénéfice du temps, parce que vous n'avez pas été jusqu'au bout de votre idée, je vais juste la compléter de mon point de vue, c'est-à-dire aujourd'hui, ou plutôt exactement hier, on parlait de recherche et développement, de recherche fondamentale, on parlait d'innovation. Et quand on parle de ça, on parle très souvent de processus, de produits, de production, de biens et services couplés, c'est-à-dire la valeur ajoutée qu'on crée par le fait qu'un produit, une montre, est aussi lié à un certain nombre de services, peu importe quel objet, qu'il soit connecté ou pas connecté. Mais on voit bien les impasses qui sont là dans l'innovation technologique, procédurale et technique, si vous voulez. D'une part, le coût de l'innovation est multiplié par 4 en l'espace de 2 décennies. Un brevet dans le monde pharmaceutique, c'est 4 fois plus cher aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Deuxièmement, l'innovation, c'est pas moi qui le dis, un certain nombre d'experts et de chercheurs, prospectivistes, l'innovation tue l'emploi. Tue l'emploi. Chaque fois qu'on introduit une innovation technologique, liée à des services bien sûr, on tue de l'emploi. Et troisième difficulté qu'on rencontre, c'est de dire, effectivement, l'innovation, elle est mondialisée. Elle est mondialisée. Une équipe dans une vallée en Inde, avec 4 clics d'ordinateur, se trouve connectée avec les meilleurs centres de compétences dans la Silicon Valley ou en Europe, peu importe où. Autrement dit, là où il y a une certaine impasse d'une productivité globalisée, et notamment la délocalisation, c'est la vitrine la plus visible de cette globalisation de la production. L'impasse est celle de dire, mais au fond, comment est-ce qu'on va créer des nouveaux produits ou des nouvelles valeurs ajoutées singulières ? Singulières. Et là, en partie, je rejoins votre raisonnement. Nous sommes dans un processus d'individuation, et le collectif se porte pas trop bien, mais en même temps, il renaît de ses cendres parce qu'il est aussi créatif. Parce que la solidarité, elle est aussi créative. Elle est, comme l'est la durabilité, les techniques et les mises en œuvre des opérations de développement durable. Je reviens à la créativité. De quelle manière peut-on expliquer que les villes qui sont sur le podium peuvent être qualifiés de créatifs? Eh bien, essentiellement parce qu'elles réopèrent une nouvelle jonction, une nouvelle approche, une nouvelle symbiose entre leur capacité de produire des biens et des services et les attentes nouvelles, les besoins nouveaux. Et c'est ça que j'ai observé dans une série de villes, j'en parlerai demain, Göteborg, Eindhoven, Hambourg, etc., etc., pour montrer en quoi est-ce que ce besoin de créativité, de nouveaux produits-services, si vous voulez, est occupé à relocaliser les moteurs du développement. C'est ça qui se passe. Ce sont les métropoles qui, aujourd'hui, sont les moteurs de développement, non plus les territoires périphériques, on peut en débattre demain. À partir de quoi on a une attitude à avoir? Alors, là, je ne partage pas du tout le point de vue de M. Cometti. Je veux dire, moi, je n'ai pas vis-à-vis de la globalisation les mêmes difficultés qu'il évoque. À demi-mot, on n'a pas eu l'occasion de... Mais c'est typique de la France. Chaque fois que je suis en France, moi, je travaille dans plusieurs pays européens. Je suis bruxellois, mais j'ai travaillé dans une boîte danoise, j'ai travaillé en Allemagne, j'ai travaillé en Grande-Bretagne. Chaque fois que je suis en France, ce débat se pose, cette espèce de défiance vis-à-vis de la globalisation. Alors que finalement, que j'observe que là où il y a ces dynamiques de territoire ou de métropole créative, c'est là où il y a eu des traumas, des événements dramatiques, des difficultés importantes, des faillites d'entreprises, des Eindhoven, par exemple, pour prendre un exemple qui n'est pas trop loin, je dirais, c'est Philips, les téléviseurs Philips, l'électroménager Philips, que sais-je encore. Tout ça a été balayé et aujourd'hui, les centres de compétences, mais aussi les centres de profit, sont dans tout autre domaine. Pourquoi ? Parce qu'on a retrouvé des bases créatives à des nouvelles attentes, à la réponse à de nouvelles attentes et à des nouveaux besoins. Et en aval de ça, on peut dire que, oui, quelle est la question culturelle qui était débattue jusqu'à présent, enfin ces dernières demi-heures, grosso modo. Moi, j'aurais tendance à dire, oui, on pourrait concevoir que la créativité soit indépendante des processus productifs de valeur ajoutée ou de biens de service, de nouvelles attentes, que sais-je encore. Je pense qu'on est dans un état d'esprit qui fait qu'effectivement, les territoires créatifs, qu'ils soient métropolitains ou pas, sont ceux qui sont capables de répondre aux nouvelles attentes et aux nouveaux besoins. Mais ces nouveaux besoins et nouvelles attentes sont aussi liés à des comportements culturels, les cycles courts de l'alimentation, la prise en compte du bien-être, de notre petite santé chérie, etc., etc. Bref, une série de demandes qui existaient beaucoup moins qu'avant. Et c'est pour ça, je ne développerai pas demain, qu'une certaine manière, ce que je remarque, c'est que dans la quarantaine de métropoles que j'ai investiguées, finalement, le précepte de Florida, hein, Richard Florida, les 3T, hein, talent, technologie, tolérance, hein, voilà, on a rabattu les oreilles avec ça, n'était plus du tout vérifié. Ce que je vois, moi, c'est qu'il y a 3C, je l'appelle à ma manière, c'est-à-dire il y a la créativité, la collaboration, parce que la collaboration, elle est la base de la créativité aujourd'hui. On ne crée plus seul. C'est impossible de créer seul. Un artiste, même aujourd'hui, je dirais, quand on lit un certain nombre d'auteurs, Newton, que sais-je encore, c'est un contexte culturel dans lequel ils ont créé. Ils ont collaboré avec d'autres. Et enfin, les compétences. Et là, il y a quelque chose de très important que vous soulignez aussi sur la question de l'éducation. On n'est plus dans la logique de dire la créativité ou la production de valeur ajoutée se passe là où il y a les talents. Eh bien, il y a eu pendant les années 90-2000 des guerres, des brain wars, des guerres entre les territoires sur la question des cerveaux. Comment va-t-on attirer les cerveaux? Et aujourd'hui, je vois dans Copenhague, Hambourg, Munich, une série d'autres villes dans les pays du Sud aussi, qui se battent sur toute autre chose, qui se battent sur comment est-ce qu'on mobilise les compétences et les compétences de tout le monde. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir des cerveaux si on n'est pas capable, dans un laboratoire, d'avoir à côté du chercheur une équipe de laborantins, techniciens de haute qualité qui sont capables d'être aussi créatifs que le talent principal, si vous voulez. Et autour de ça, des métiers qui sont des métiers de logisticien, de secrétaire, peu importe, qui comprennent ce que c'est un défi de type créatif. Et ce que je vois à Copenhague, à Hambourg et à Munich, les trois villes que je citais à l'instant, ce sont des dispositifs qui articulent ces trois choses. Donc, à l'égard des besoins d'une entreprise ou d'un secteur d'entreprise, eh bien, les centres d'enseignement et d'apprentissage, hein, pas seulement les universités ou les écoles supérieures, les centres d'apprentissage par l'alternance, etc., proposer des équipes ensemble sur ces trois types de métiers. Et c'est pour ça que j'insiste sur la question de l'éducation, des compétences, mais à tous les niveaux. Voilà, c'était quelques points que je voulais soulever. Maintenant, demain, j'aurai l'occasion de revenir plus en détail.
Ça nous met en appétit pour demain. Oui, allez-y, le micro. Et puis je crois que vous vouliez intervenir.
Juste un mot, je trouve très éclairant ce que vous venez de dire, bien entendu. Je me sens d'ailleurs assez en accord avec ce que vous avez souligné. Deux points simplement. Vous avez dit, chaque fois que je me rends en France, j'ai affaire à cette sorte de souci local. Je vois bien ce que vous voulez dire. Si j'y ai insisté, autant dire pourquoi, c'est parce qu'il me semble que c'est le point ou le lieu d'un déficit démocratique. Donc c'est ça pour moi la question. Donc je crois que ce qui s'inscrit désormais dans une globalisation, mais la question des métropoles permettrait peut-être de reformuler la question en effet, d'où toutes sortes de questions qui touchent à des découpages administratifs en France qui sont tout à fait importantes de ce point de vue, parce qu'on a peut-être perdu de vue que le cœur de tout ça, ce sont les métropoles, et non pas les régions, les départements, que sais-je. Enfin bon, je ne veux pas passe. Donc peut-être on pourrait poser la question à ce niveau, mais le fait est que dans l'état actuel des choses, je crois que nous souffrons d'un déficit démocratique et que ce déficit démocratique demande à être abordé en des termes qui intègrent le souci du local. C'est ce que je pense. Voilà, c'est pour ça. Donc c'était pas d'une part. D'autre part, vous avez fait allusion, enfin vous avez parlé de besoins nouveaux, là où effectivement on a assisté à des regains de créativité. Vous les avez associés à des besoins nouveaux. Je m'interroge pour ma part sur la nature de ces besoins. Je veux dire que du point de vue justement de ce déficit de démocratie, est-ce que ces besoins, quelle en est la nature exacte ? Est-ce que ce sont des besoins liés à une situation, y compris à ce qu'elle comporte de privatif ou de négatif ? Comment faut-il les concevoir ? Je pense que c'est une question qui se pose aussi, même si ces besoins, ces nouveaux besoins, effectivement, existent, et même si ça explique en effet ce que vous avez essayé de mettre en mise en relief très clairement. Merci.
Oui. Fiorenza Kut, je suis un chercheur de tradition populaire au niveau de la Vallée d'Aoste. Je maîtrise pas si bien le français, donc j'essayerai de me faire comprendre. Et quand Monsieur Daniel m'a invité à participer à cette journée d'automne, j'ai accepté avec beaucoup d'intérêt. Le mot créativité lié au mot territoire m'a fait poser beaucoup de questions. Et j'ai dit, comment il va être si lié? Pour ce qui me concerne, il y a plus d'une vingtaine d'années que je suis en train de recueillir le matériel de la mémoire orale de la tradition populaire du Val d'Aoste. Pour la raison que même si au Val d'Aoste on parle encore le patois, que c'est une langue franco-provençal. On parle nouvellement le français après la période fasciste. Et on étudie l'italien en Italie. J'ai découvert que beaucoup de monde, vis-à-vis qui vont mourir les personnes âgées, on va perdre des connaissances qui, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut faire des fouilles archéologiques dans une autre façon, que c'est celle de la mémoire. À travers là, on va récupérer la culture, une culture qui quelquefois plonge dans des milliers d'années. Et j'ai découvert ça en m'occupant d'étudier les formules de guérison, ce que dans mon patois s'appelle le secret. Alors, j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, même moi, même si j'avais eu une grand-mère qui m'a transmis beaucoup de choses. Mais chaque pays, chaque petit village, pas seulement chaque commune, mais même chaque petit village, quelquefois, a une langue qui diffère de celle de la commune. Comme pour ce qui me concerne, je ne parle pas le patois de ma commune qui s'appelle Sogne, mais je parle le patois de mon village qui s'appelle Florent. Donc, les différences de langue vont créer des changements, même au niveau culturel. Des petits changements. Donc, le mot créativité pour le passé, on peut l'employer? C'est ça la question que je me suis posée. Pour moi, c'est surtout employer le mot capacité à s'adapter à un territoire et à construire à travers là de la culture. Pour moi, c'est surtout cela. Alors, le mot créativité aujourd'hui, j'aime beaucoup ça. Et je pense que ce sont des changements qui sont en train d'intervenir dans la société. Une société technologiquement avancée, une société qui peut se permettre d'avoir de l'argent pour étudier des choses qui avant n'étaient pas possibles. Mais je pense quand même qu'on a beaucoup besoin que même la sociologie fasse sa part et nous aide à dévoiler des choses qui sont très difficiles à comprendre encore. On peut débattre beaucoup. M'a très intéressé ce que vous avez dit aujourd'hui, tous ceux qui sont intervenus, pour moi, a été une richesse, une vraie richesse, une découverte de plusieurs choses, mais je me demande, je me pose la question, c'est mieux, créativité, c'est nécessaire. Et comment l'employer sans perdre la notion de collectivité qui avait la tradition. Créativité, c'est surtout quelque chose que l'individu va développer tout seul. Et bien, c'est vrai que l'individu seul ne peut pas vivre et a nécessité de vivre collectivement. Mais si je pense les capacités de chaque personne mise ensemble quand on faisait des travaux communs, je pense à ce que j'ai découvert, les travaux qu'on faisait les soirées de l'hiver passées dans une étable, à échanger les pensées, les travaux nécessaires pour les objets nécessaires pour les travaux à la campagne. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier, de même de découvrir et de connaître bien la tradition qui nous donne une aide à pas perdre ce qui est très important, qui c'est le social et la collectivité que l'homme a besoin, pour la raison qu'on ne peut pas devenir seulement libériste, je ne sais pas si c'est correct, libéral, mais libertaire, mais la partie, il faut rester humain, il faut rester dans la dimension humaine et respecter ce que c'est ça. Merci.
Merci Fiorenza, et sachez qu'on vous retrouve vendredi. Voilà. Vous voulez réagir ou...
Et ça me suggère quand même une réflexion, ce que vous venez de dire, qui me semble très juste, évidemment, par rapport justement à cette question du local et du global. Quand on vit dans certaines régions, le Val d'Ost peut-être, ou d'autres en France, parce qu'on est quand même dans un pays très contrasté de ce point de vue-là, on s'aperçoit que il y a un développement inégal. Je veux dire que dans certaines régions, on ne vit pas exactement dans le même temps que les autres. Il y a des formes de vie qui ont été davantage préservées ici qu'ailleurs, etc. Bon. Auxquelles souvent les gens sont très attachés. On peut évidemment se demander dans quelle mesure les réactions qu'on peut observer chez eux, face à ce qui se profile ou à ce qui est en marche dans le monde aujourd'hui, dans quelle mesure elles ne pourraient pas être considérées comme parfaitement fondées. Après tout, puisque nous avons changé de cap, vous savez, il y a des gens qui étudient ça. Des historiens, par exemple, il y a un historien qui s'appelle Hartog qui réfléchit à ce qu'il appelle les régimes d'historicité et qui observe que nous avons un rapport au temps, à l'histoire, aujourd'hui, depuis peut-être 30, 40 ou 50 ans, je ne sais plus, qui est celui ce qu'il appelle le présentisme, c'est-à-dire une période de l'histoire, du temps, marqué par un rapport au temps qui est essentiellement celui du présent et qui ne se définit plus par rapport à un futur, au sens où, par exemple, dans les périodes où on parlait de production, justement, on se situait en effet dans un temps orienté vers le futur. Bon. Aujourd'hui, il semble, selon en tout cas Hartog, mais moi personnellement je souscris à cette thèse, que nous soyons dans une phase marqué par le présent, qu'il appelle présentisme, d'où d'ailleurs tout un ensemble de choses qu'on peut observer en ce qui concerne le souci de la mémoire, du patrimoine, etc. etc. n'est-ce pas ? Bon. Donc si, de toute façon, nous avons abandonné un certain nombre de schémas ou de visions des choses orientées vers un futur, lorsqu'on pensait encore que ce futur était déterminé ou quasi déterminé à l'avance, on peut se poser la question de savoir si, en définitive, on n'a pas le droit, ce n'est pas légitime, de préférer des choses qui existent depuis longtemps plutôt que celles qui se dessinent.
Et ça, ce sont des choses qui ont leur importance. En tout cas, lorsqu'on se montre attentif au comportement des gens, là où ils sont, je crois qu'il ne faudrait pas trop les escamoter, les tenir pour nuls et non avenus, parce que nous réfléchissons à des phénomènes plus globaux, plus généraux, etc.
Une question peut-être, et puis ensuite je demanderai à Yvette Lazéry de venir ici pour nous dire un peu ce qui se passe du côté de Aix, et peut-être, puisqu'on est dans une phase de construction, hein, rien n'est figé.
Merci. Oui. Esther Dubois, association Complexité, je travaille également sur la mobilité, la liaison mobilité et beauté. Donc je voulais juste témoigner d'un exemple par rapport à ce qui s'est dit sur la question de la compétence. Et vous donnez cet exemple qu'aujourd'hui, sur la question de la mobilité, d'une manière générale, on est plutôt sur de la dimension infrastructure, c'est-à-dire sur la dimension technique plutôt que sur la dimension cognitive. Et donc, si on regarde un peu ce qui se fait aujourd'hui, on développe plein de projets de transport, tout ce qu'on veut, de vélo, etc. Mais tout ça est segmenté, comme le dirait Edgar Morin, et ne se rencontre pas. Or, quand on part des activités humaines, puisqu'on parle de la notion de conception et production, sur le terrain, eh bien, ça change la donne. Parce qu'on ne va pas travailler sur un aspect isolé des choses, mais on va travailler sur l'ensemble. Il y a un projet comme ça qui se fait, qui s'appelle Bretagne Mobilité Augmentée, qui est parti de l'activité des gens, donc qui n'a pas de finalité au démarrage. Donc ça désarçonne tout le monde. Et qui travaille sur le terrain, avec les gens, sur la capacité qu'ils ont à faire de la mobilité et du coup avoir des changements de comportement eux-mêmes sur le terrain et à développer cette mobilité. Donc la question là en termes de productivité, eh ben, elle va être minime, ça va être des tout petits projets. Donc pour le monde du commun de la politique générale, c'est pas reconnu. C'est-à-dire que par exemple... dans ce cas général, la métropole de Rennes ne reconnaît pas ce projet comme étant intéressant. Or, pour le monde des humains, on va dire que c'est plutôt essentiel, parce que très vite, on passe d'un micro-projet à un projet qui, en un mois, passe de 3 vélos à 100 vélos. Voilà, je ne vais pas détailler les exemples, ce n'est pas le sujet. Donc je voulais juste venir sur cette question qui me semble intéressante sur l'aptitude, les compétences... dont on parlait tout à l'heure, et qui pour moi relie aussi une dimension très présente, puisqu'on parle aussi de la question créative, artistique et de la créativité, qui est la dimension poétique. Relie précisément la question de la prose, c'est-à-dire toutes les contraintes techniques qu'on peut imaginer, mais aussi toute la question de la liberté, de la poésie. Donc on est bien entre l'individu et le collectif. Et du coup... on va, comme le disait la dame sur les traditions populaires, aller défricher finalement, comme là sur le terrain en Bretagne mobilité augmentée, on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. C'est de l'inconnu total, et c'est en allant sur le terrain avec les gens et dans les mœurs et les traditions qu'on va reconnaître le territoire et puis reconnaître la façon dont les gens sont habités par ce territoire. Donc on est bien dans l'anthropologie, de la sociologie et qui va relier la dynamique de la beauté, parce qu'effectivement, bah là, on va innover, on va créer, et on va peut-être faire des vélos mixtes ou des trottinettes mixtes, ou on va peut-être faire de l'espace public avec du bois et du béton. Et du coup, on va relier de la beauté, puisqu'on va être dans l'essence même de l'individu. Donc je voulais juste revenir sur cette question du coup de la créativité comme ressource, comme pouvoir d'agir, mais aussi comme pouvoir de liberté. Donc on est bien entre le collectif, la capacité de concevoir, et puis finalement quand même la poétique, hein, si on regarde les termes, c'est quand même au sens propre de l'action. C'est pas juste du rêve. Donc pourquoi séparer la question productive de la question de la conception ? Moi, je ne la sépare pas. Je trouve que dès l'instant où on fait de la conception, on fait déjà de la production. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ma conception des choses. Il me semble que les deux sont liés en permanence.
Une autre réaction, une autre question peut-être, ou réaction ?
Oui, moi je voudrais, donc Jean-Marc Neveu du Centre des jeunes dirigeants, remettre un peu, on parlait des espaces et reparler de l'espace de l'entreprise et un peu les mutations qu'il y a justement là-dedans. Ce qu'on cherche à faire au niveau de l'entreprise et la créativité, je crois que c'est un lien très fort à ce que vous disiez du lien de confiance. On n'a pas parlé du lien de confiance et des valeurs qui sont associées à ça. Je crois que l'idée d'une entreprise un peu innovante aujourd'hui ou créatrice, ce serait une entreprise qui justement non seulement favorise l'émergence des idées en son sein par les individus et qui sont reconnus au niveau du collectif de l'entreprise. Donc ça veut dire l'émergence de nouvelles idées, ça. Mais c'est aussi les entreprises qui sont ouvertes par rapport à l'entreprise elle-même, mais ouvertes sur ses parties prenantes. Et du coup, le lien de confiance qu'elle peut avoir ou créer à l'intérieur de sa structure pour faire émerger la créativité, en fait, et en faire quelque chose pour résoudre un problème, eh bien, elle le partage avec un certain nombre d'autres parties prenantes que sont l'éducation, que sont les institutionnels, etc. Et c'est, à mon avis, là où il y a quelque chose de à la fois riche en production d'idées et en même temps de lien social, de dire qu'une entreprise ou un groupe d'individus, de toute façon, ne peut pas être étendu à l'ensemble et je pense qu'on ne peut pas travailler avec le monde entier, ça c'est évident, c'est une illusion de croire ça, mais qu'on peut, entre ces espaces, différents espaces où on a créé de la confiance et où on a créé du lien et de la valeur, qu'il y a de la création de richesse et de la créativité.
Une dernière remarque, et ensuite Yvette, si tu veux intervenir, peut-être un élément de réponse de Jean-Pierre, mais je signale simplement qu'on a une contrainte, c'est qu'absolument à 17h, la guide conférencière nous attend, ça va, on a encore 25 minutes.
Merci. Très rapidement, parce qu'effectivement, l'heure tourne. Nelly Barbe, je suis chargée de mission spectacle vivant au sein du service culture à la région Poitou-Charentes. Je voulais simplement revenir sur ces deux notions qu'on a malheureusement survolées, mais qui me semblaient déterminantes à expliquer pour poser le cadre du débat, celle de la créativité et de l'innovation. Alors sans poser la question de la définition des deux, je vais m'appuyer simplement sur l'exemple que vous avez pris, monsieur Cometti, de cette tentative de diffusion d'œuvres artistiques dans un espace carcéral, je crois, en disant voilà, qu'il y avait une grande porosité aujourd'hui entre... Oui, ce n'est pas une tentative, ça a été réalisé. Simplement pour dire que, moi, de mon point de vue, il y a certainement quelqu'un qui s'est pensé certainement très créatif en proposant cette action dans un milieu carcéral, mais il n'a pas du tout été innovant dans la mise en œuvre. C'est-à-dire que l'innovation, elle repose sur un tissu partenarial, sur un processus de mise en œuvre collaboratif entre plusieurs acteurs pour que chacun trouve son compte dans l'action et que, ben, visiblement, les usagers ont certainement pas été associés. Mais voilà, les deux notions d'innovation et de créativité me semblent nécessaires à distinguer. Puis très très rapidement, sur la question des pôles métropolitains, qui sont effectivement les moteurs, on peut le dire, hein, de développement économique, culturel, sur l'Hexagone. En Poitou-Charentes, on n'a pas de pôle métropolitain, pas encore en tout cas. Dans une région agrandie prochainement, il y en aura un. Pour autant, je pense qu'on a la richesse d'un territoire très rural comme Poitou-Charentes, mais comme d'autres encore en France, c'est d'avoir un maillage territorial et pas d'hyperpolarisation d'acteurs ou d'espaces, d'équipements sur des grandes agglos. Et du coup, toute la force aujourd'hui du travail de ces acteurs, appuyée par des politiques publiques qui ont été très, très novatrices dans ce sens, c'est la question de l'innovation sociale. Et comment on a aussi mis en place sur les territoires des médiateurs, des passeurs, non pas pour construire, pour imposer, répondre à une offre à une logique d'offre et de demande de diffusion culturelle, mais comment on a mis en place ces passeurs pour organiser des espaces de discussion et voilà, de facilitation de politiques publiques culturelles. C'est tout, je m'arrête là.
Jean-Pierre, un mot peut-être, et puis ensuite Yvette.
Non, enfin, sinon que la question des métropoles, elle se pose aussi dans ces termes. En effet, nous sommes dans un pays où il y a des métropoles qui ont acquis une certaine importance, qui sont en voie d'être officialisées en quelque sorte, de façon un peu étrange. Mais après tout, quid en effet des régions comme celle-ci où il n'y a pas de métropole. Donc je suis tout à fait
à la question. Il ne peut pas être question de les rayer de la carte. C'est-à-dire, si on conçoit tout en termes de métropole, on a des questions qui se posent à ce niveau. Mais bon, je sais pas.
Je voudrais savoir ce que monsieur en pense. Parce que
peut-être vous répondrez demain.
Mais non, ça serait intéressant d'avoir un mot. Parce que
c'est un mot, expliquer
que les territoires ruraux, ce qu'on appelle les ruraux, se sont globalisés. Ils sont métropolisés, comme on dit. La drogue, le crack, l'LSD, la cocaïne que vous citiez, ça circule autant dans la ville qu'en dehors de la ville. Et la même chose, j'intervenais à un colloque de la Fédélima, vous connaissez probablement hein, ce réseau sur les musiques actuelles, mais pour faire comprendre en quoi ce n'est pas le lieu, la métropole, qui est visée, mais bien les aires métropolitanisées, si on peut me permettre ces néologismes un peu difficiles à prononcer, c'est-à-dire des territoires qui sont quelque part globalisés, où vous êtes de toute manière en contact quotidiennement dans vos courses, dans votre activité professionnelle, dans vos réseaux, avec des espaces multiscalaires. Vous êtes en même temps en face et vous avez votre smartphone et vous êtes connecté avec l'ensemble de l'espace. Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer métropole et autres territoires, ce que certains sociologues, je pense à Christophe Guilly, font avec énormément de dégâts et d'erreurs. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, 90-95% du territoire français est globalisé, métropolitanisé. C'est ça la réalité.
Yvette, tu te présentes en même temps.
Oui, donc Yvette Lazéry, enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille. Alors, nous sommes un petit groupe de chercheurs, plus exactement, nous sommes actuellement 17, à nous être rassemblés autour de l'idée de construction d'une plateforme créativité territoire. Un peu dans la suite de travaux que nous avions fait il y a quelques années pour le ministère et puis suite à une rencontre avec Jackie Deniel. Et donc il faut savoir que cette plateforme s'inscrit dans un contexte bien particulier, c'est que je suis responsable d'un pôle développement durable et territoire méditerranéen. Et donc cette notion de plateforme et de créativité s'inscrit dans cette toile de fond qui est le développement durable. En d'autres termes, on a abordé cette question de la créativité autour de l'idée que derrière l'idée de développement durable, c'est aussi changer les modes de pensée, les modes de faire. Et donc, comme disait Einstein, si on veut changer, pour changer de modèle, il faut changer les outils qu'il a inventés. Enfin, il a formulé un peu différemment, mais c'est dans cette idée-là. C'est-à-dire, on ne peut pas changer de modèle avec les outils qu'il a inventés. Voilà la citation d'Einstein. Et donc fort à la fois de ces principes de développement durable qui sont derrière porteurs de valeurs et de changements, donc on a abordé cette question de la créativité. Et au travers de cette notion des travaux de chercheurs que nous avons pu analyser, alors on a balayé les travaux de psychologues, de neuroscientifiques, d'anthropologues, d'économistes, de chercheurs d'horizons divers et variés. Tout ça pour finalement trouver une définition de la créativité relativement consensuelle, à savoir la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle, alors nouvelle entendue au sens inattendue, originale, hein, pas simplement faire du neuf, donc qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se déploie. D'où cette notion de créativité nous a aussi ramené à la question du territoire, en ayant bien conscience que le territoire est dans une emprise globale, et en particulier quand on est sur le champ du développement durable, le territoire est à géométrie variable. Donc on n'est pas enfermé sur un périmètre donné. Mais tout ça nous a amené à nous dire finalement, est-ce que ça ferait sens, et là je n'ai pas la réponse, est-ce que ça ferait sens de développer le concept de créativité territoriale? Donc on est en train de réfléchir à ces questionnements-là.
Donc nous nous sommes entourés eh bien, de praticiens. Donc nous avons des paysagistes, des architectes, des urbanistes, il y a un responsable de la prospective de la mairie de Marseille qui est avec nous. Il y a un responsable de l'agence d'urbanisme aussi. On a un pôle de compétitivité. Je ne désespère pas d'en avoir un second rapidement. La communauté d'agglomération du Pays d'Aix est partie prenante. L'agence régionale pour l'environnement aussi est partenaire. Bon, voilà, nous sommes un petit groupe à la fois de chercheurs qui avons réussi à réunir quelques praticiens. Et finalement, la première question qu'on s'est posée, mais pourquoi on est tous là ? C'est exactement la question que vous avez posée au début. Et finalement, la réponse qui a été donnée, bah, c'est parce qu'on a tous envie de changement. On est tous enfermés, y compris nous universitaires, dans nos compétences, dans nos formations, dans nos méthodes. Et on a en même temps tous envie d'aller vers autre chose qui est porteur d'un mieux-être, hein, même si ça reste à définir. Bon, et du coup, voilà. Du coup, nous avons conçu cette plateforme autour de cette idée de construire un concept de créativité territoriale. Alors, nous avons trois doctorants avec nous. Alors, peut-être qu'on va se casser les nez. Hein. C'est bien possible. Je n'en sais rien. Tout au moins, ben, nous rassemblons déjà beaucoup de recherches. Et finalement, on voit bien que la créativité est à l'interconnexion de facteurs qui soient à la fois cognitifs, c'est-à-dire ben, toutes les connaissances que l'individu a pu amasser, tous ses savoirs, et puis en même temps de facteurs très cognitifs qui ont trait à l'être, c'est-à-dire à la personnalité de l'individu, à sa sensibilité à l'émotion, à sa manière de ressentir. On est tous différents devant un paysage, devant ce groupe, je dirais. Et puis aussi de facteurs purement environnementaux, c'est-à-dire bah, finalement ce qui nous entoure, hein, la société locale, nos relations, etc. Bon, donc dans ce concept de créativité territoriale, nous sommes en train d'essayer d'analyser un peu tous ces éléments-là. Donc bien évidemment, ça nous a fait balayer tous les travaux de Florida, sur les villes créatives, sur les milieux innovateurs qui abordent tous ces champs-là. Et bon, on en est là. Et donc nous avons décidé d'organiser une rencontre des plateformes, donc avec Jackie, le 12 décembre, à Aix-en-Provence. Alors, ou Marseille, parce que ça va dépendre des personnes, voilà, parce qu'en fonction des facilités de déplacement, ce sera Aix ou Marseille. Une journée avec deux temps. Un premier temps qui serait finalement une rencontre de ces plateformes, échanger un peu finalement qu'est-ce qu'elles font. Nous, nous sommes raccrochés à l'université, mais d'autres sont sous forme associative. Enfin, toute plateforme, je dirais, a son histoire, a son vécu, et puis ses expériences, ses impacts. Et donc, partager un peu tout cela, finalement, pour s'interroger aussi à quoi finalement ça peut servir. Et puis, un autre temps, qui serait un temps où on pourrait s'interroger sur cette question de la créativité territoriale et où, en particulier, donc, on interrogerait un peu le rôle de la recherche dans toute son interdisciplinarité. Donc voilà, hein, une journée qui débouchera sur de la production, c'est-à-dire que... Bon, nous publions une 4 pages régulièrement, donc voilà, le fruit de cette rencontre sera très largement diffusé. Voilà, et puis bon, donc notre plateforme d'ici 3 mois devrait être en version numérique, abritée par un site des sciences humaines et sociales qui est Open Edition, et de façon à construire un outil extrêmement itératif et sympathique. Donc voilà.
Merci Yvette pour ces précisions et cette invitation, si j'ose dire. On a encore 10 à peine minutes, mais il y a quelques questions. Et comme on a commencé avec un philosophe, on est enserré par les philosophes, on terminera avec un philosophe. Voilà, mais il n'y a pas que des philosophes dans la salle.
Merci. Denis Brunet, conseiller général de Mirbeau, vice-président du Conseil général et chargé de la coopération internationale et de l'attractivité. La créativité des territoires... Jackie Doniol m'a demandé d'y réfléchir et je vous en parlerai demain à 17h, donc je ne vais pas dévoiler ce que je vais dire dès aujourd'hui. Simplement que c'est un sujet complexe et que la créativité, quand on est élu, elle n'est pas individuelle, elle a une vocation sociale, elle a une vocation large. C'est-à-dire que l'objectif, c'est effectivement peut-être le développement économique à travers tout cela, la création d'emplois, mais également le bien-être des concitoyens. Donc il y a tout un tas de facettes qui ne sont pas forcément toujours imaginées, mais qui sont en fait le moteur de la créativité des territoires. Et c'est vrai que ça dépend d'énormément de facteurs, puisque bon, dans mes missions de relations internationales, aussi bien au titre du département de la Vienne qu'au titre des départements de France, j'ai l'occasion de comparer de nombreux territoires et de regarder quels sont les objectifs, bien entendu, de développement, de croissance. Bon, on étiquettera comme vous, ou de bien-être humain et de qualité de vie sociale. Ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend, bien entendu, des hommes en place. Ça dépend, bien entendu, des conditions historiques du territoire. Ça dépend, comment dire, encore une fois, des structures aussi qui sont celles des territoires. Il est évident que un territoire qui répond à un pays centralisé n'a pas les mêmes moyens, n'a pas les mêmes possibilités qu'un territoire qui répond aussi à une structure fédérale. Donc tout cela, ça rentre en ligne de compte. On en débattra peut-être demain. Ce n'est pas là-dessus que je vais porter mon intervention, mais également sur une espèce de regard comparatif entre les différents territoires, en considérant qu'aujourd'hui, la créativité qui est attachée à la personne humaine, quoi, depuis les dessins de Lascaux jusqu'aux fortifications de Vauban, en passant aujourd'hui par toutes les possibilités de développement touristique sur des territoires qui ne sont pas envahis par les métropoles. Donc chacun a son degré de créativité et son objectif de développement territorial. Donc tout ça, je pense qu'on en parlera demain, mais c'est un sujet excessivement intéressant. Et quand on est élu, on est obligé, bien sûr, de s'y pencher. Sinon, il faut faire autre chose. Je crois que la créativité, encore une fois, l'innovation, la créativité et l'innovation, on parlera des deux, mais c'est aujourd'hui quelque chose qui touche, bien entendu, chacun des territoires, de la plus petite commune jusqu'à la plus grande métropole et jusqu'au plus grand pays de la planète.
Merci, M. René. Alors, deux, trois questions qu'on ramasse. Et je demande à Michel de ramasser aussi son propos.
Merci. Bon, je me présente, je m'appelle Nadia et j'habite Poitiers. Moi, je voulais rebondir sur un concept, quelque chose qu'on n'a pas abordé, pas directement, c'est la potentialité. Parce qu'on fait le constat quand même que bon, là, on prône la créativité, mais on vit dans une société qui nous range dans des cases, soit par notre diplôme, soit par tout un tas de cheminements, qui fait qu'on a tendance à ranger les personnes un peu dans des tiroirs. Et du coup, ça bride des potentiels, à la fois en termes de relations, à la fois en termes de participation. Et donc je rebondis aussi sur ce qu'a dit le monsieur derrière moi. Il parlait de la confiance et ça va avec repérer les potentialités de chaque personne, la créativité qui est pour moi effectivement aussi en chacun et qu'elle demande finalement uniquement qu'à s'épanouir, qu'à s'émanciper, qu'à prendre naissance grâce à des opportunités. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est en lien avec ce que je viens de dire, c'est comment finalement on pourrait peut-être réfléchir sur des façons d'enseigner. Donc là, bon, il y a plein de choses à faire. Je crois que les choses évoluent plus ou moins grâce au numérique. Et ça peut être intéressant aussi de se poser la question de permettre aux jeunes, tout jeune, de pouvoir s'exprimer dans la créativité au sein même de l'école, de différentes façons, parce qu'il n'y a pas que l'art, il y a plein de choses qui expriment la créativité.
Merci. Toujours envie de poser une question rapide.
C'était juste de rebondir sur le fait que, alors Max Lassor, je suis designer, je m'occupe particulièrement des relations personne-espace, et qu'est-ce que l'espace nous fait vivre. Et on en parlera peut-être vendredi aussi, l'auteur d'un tiers-lieu qui est en naissance à côté d'Angoulême. C'était deux réflexions sur lesquelles, en fait, le processus de créativité se trouve humainement parlant et technologiquement. On a inventé, avec le XXe siècle aussi, des outils nouveaux. On en a fait des jouets parce qu'on aime bien jouer avec. Et là-dedans, on a mis notre puissance. Et ça, on l'exerce sur les territoires qui sont ceux de nos compétences ou de nos juridictions ou de notre famille ou de notre commune. Et donc, Est-ce qu'aujourd'hui, on ne se heurte pas à ces deux composantes ? Comment pourrait-on regarder celui de la rupture et de la puissance dans l'exercice de notre créativité sur les territoires ?
Merci pour la concision de l'intervention. Encore une question ou pas ? Et sinon, quelques éléments de réponse. Quelqu'un veut apporter ?
Moi, je veux bien répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure concernant l'éducation. Alors, il y a des études qui ont été faites justement sur, alors pas en France, mais aux États-Unis, sur le niveau de la créativité, puisqu'ils mesurent la créativité en fait des individus depuis le plus jeune âge jusqu'à. Alors, je ne sais pas quel âge d'ailleurs, mais ils font un test qui s'appelle le test Torrance. Et ils se sont aperçus justement que la créativité avait diminué fortement depuis 10 ans. Enfin, la dernière étude date d'il y a quelques années. Et que c'était particulièrement lié à l'éducation, justement. Ils évoquent plusieurs facteurs, donc il y a l'éducation. Mais il y a également la façon dont les enfants utilisent leur temps libre, notamment en lien avec tout ce qui est jeux vidéo, télévision, qui sont des systèmes qui font que la créativité à partir du CP en gros commence à diminuer. Il y a une forte diminution au moment du CP, une forte diminution au moment du baccalauréat, en fait, parce qu'on est obligé de rentrer dans un système de fonctionnement et d'éducation qui est beaucoup plus convergent et qui empêche en fait la divergence de continuer à s'opérer. Mais c'est difficile d'en parler aussi rapidement parce que c'est plus complexe que cela. Il y a aussi des phases d'éducation qui font qu'on est obligé aussi de passer par certaines phases. Mais effectivement, l'éducation mériterait d'être revue et d'intégrer la créativité de façon plus importante parce que effectivement, c'est quelque chose qu'on a tout petit et qu'on perd au fur et à mesure alors qu'on pourrait simplement le garder. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est par rapport au MOOC et par rapport au territoire. En termes d'éducation aussi, alors ça va délivrer un savoir, mais effectivement, en termes de savoir-être et de savoir-faire, ça reste délicat parce que c'est à distance, parce que c'est du numérique, parce que ça reste aussi individuel, malgré tout, même s'il y a un forum dans lequel les personnes vont pouvoir échanger et que l'apprentissage il se fait aussi sur le forum. On est quand même surtout sur du savoir, plus que du savoir-faire et du savoir-être, qui demande là, par contre, d'être en présentiel et d'être en collectif. Parce que la créativité, elle a besoin du collectif pour être boostée. Et effectivement, ce n'est pas la même chose, la créativité individuelle et la créativité collective. Il y a des personnes qui sont extrêmement créatives de façon individuelle, mais qui ne savent pas fonctionner en collectif et co-construire ou co-créer. Et c'est tout le but en fait de la créativité en entreprise. C'est un des enjeux majeurs qu'il y a à apprendre à faire de la créativité en entreprise. Et dernière chose concernant justement le territoire, ce que je trouve intéressant par rapport justement à ce type d'enseignement, c'est que ça décloisonne complètement justement, ça va au-delà du territoire, ça permet à des publics très variés et très différents qui n'auraient pas accès à ce genre de savoir d'y avoir accès. Je vois les personnes qui sont inscrites aujourd'hui, il y en a plus de 3000 sur le MOOC. Et vous avez pas mal de gens qui sont chômeurs, pas mal de gens qui sont en reconversion professionnelle et qui justement utilisent ce support-là pour développer leur projet, voilà, par exemple. Et c'est vrai que du coup, ça permet d'élargir cette connaissance qui devrait être finalement universelle parce que la créativité, ça nous concerne tous, on l'a tous. Et la plupart des gens ne savent pas ce que c'est, comment ça fonctionne, comment ça marche. Et c'est bien, je trouve, de pouvoir élever le niveau de conscience sur ce sujet-là qui à mon avis, est un levier de croissance pour tout le monde. Voilà.
Bien, merci Brigitte. Et je demande à Michel de venir, peut-être si tu peux lui laisser. Non, mais ça va. C'est bon. Pas tant. Bon, bah. Ah oui, pas plus. Je suis désolé, il faut être concis. Non, parce qu'il faut quand même qu'on enchaîne.
Très rapidement, vous dire ce que je crois avoir entendu. Bon, je risque de me tromper parce que j'étais assez vite. Et en ce qui concerne, j'ai pris en note en vitesse, vous, vous, vous me contredisez si ça ne marche pas. Entre philosophes, c'est normal. J'ai cru comprendre que vous vouliez qu'il y ait pas de, qu'il soit le, entre le local et le global, que ce soit indissociable. Et vous avez aussi pensé que cet art, en devenant international, favorisait une sorte de capitalisme mondial. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, vous avez été très clair, et qui pourrait produire un déficit démocratique, c'est votre mot. Mais la question qui se pose derrière tout ça, c'est est-ce qu'il y a une différence entre créer et produire? Et pour vous, oui, si vous ne contredisez pas. La création ne se décrète pas. J'ai entendu aussi beaucoup de choses de solidarité créatrice, de villes créatives, car elles sont devenues des symbioses entre les capacités de production et les réponses à des attentes. Y a-t-il de nouvelles attentes? La créativité est-elle individuelle ou naît-elle d'une collaboration? Donc, question, l'artiste, par hasard, ne créerait-il plus tout seul? Il faut mobiliser les cerveaux. Est-ce que c'est valable dans l'art? Participer, est-ce être créatif? Alors, on pourrait se poser la question, beaucoup participer à une pièce de théâtre, est-ce qu'on est créatif? C'est quelque chose qui se dit depuis un certain nombre de temps. Est-ce que la solidarité est créatrice? Il faudrait faire en sorte que les compétences qui sont fracturées se rencontrent, n'est-ce pas? Donc il y a une dimension politique de la créativité. La question qui se posait, c'est est-ce qu'il y a un artiste local, même s'il est implanté dans une localité? Est-ce que la créativité et l'entreprise impliquent un lien de confiance et un certain nombre de valeurs, comme on peut le dire sur le plan de l'entreprise? Aujourd'hui, les espaces sont-ils complètement globalisés ou est-ce qu'ils sont... Bon, voilà. Est-ce que concevoir, c'est déjà créer? Voilà toutes sortes d'idées. Alors, je voudrais juste apporter mon grain de poivre. Créativité et... c'est le point de vue du philosophe, mais ce n'est pas un point de vue. Créativité et création, pour moi, ce n'est pas la même chose. Je dirais que vous tombez, et nous tombons tous, nécessairement, bien qu'on puisse en discuter, sur ce que Bergson appelle la logique de rétrospection, n'est-ce pas? On crée, on fait une prédirection qui n'est pas une production, et on pense qu'avant cette création, il y avait comme quelque chose qui existait et qui était de la créativité, une sorte de potentiel. Est-ce que ce n'est pas rétrospectivement qu'on pense qu'il y a de la créativité? Alors du coup, on peut effectivement trouver de la créativité partout, mais on peut peut-être aussi se tromper. Je suis tout à fait d'accord, les enfants sont créatifs. Est-ce que ça va pour autant donner de la création à un moment donné? C'est évidemment tout l'espoir que vous pouvez mettre dans l'éducation. Et je crois que les systèmes ne vont pas tellement dans ce sens-là. Pour terminer, je voudrais juste vous donner un petit exemple sur lequel j'ai l'occasion de travailler parce que c'est quelqu'un que je n'ai pas connu personnellement. Il s'agit d'un artiste peintre du XXe siècle, qui est un des maîtres de l'art naïf, qui s'appelle André Beauchamp, que vous trouverez dans tous les dictionnaires. Voilà un monsieur qui était horticulteur dans un petit village, une petite ville au début du siècle XXe, qui était horticulteur à Château-Renaud, non loin d'ici, et qui a fait son service militaire dans les Dardanelles. Et puis, comme il avait un peu le sens du commerce, il fabriquait des petites cartes postales pour les vendre à ses petits camarades pour qu'ils envoient dans leur famille. Et ensuite, on s'est aperçu qu'il dessinait pas si mal. Alors, on l'a envoyé dans des centres et puis on a découvert qu'il était un peintre. Et après avoir beaucoup produit, un certain Le Corbusier a dit « Mais c'est un des maîtres de l'art naïf du XXe siècle. » Alors, Monsieur Stravinsky, alors il n'a jamais manqué non plus d'être quelqu'un qui était très intéressé par la réussite et la vente de ses tableaux. Et pendant toute sa vie, il a été un peintre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un créateur? C'est quelqu'un, je crois, la création, je ne parlerai pas de créativité parce que là, on s'enfonce dans des rétrospectives. On ne sait pas. Qu'est-ce que c'est qu'un créateur? Qu'est-ce que la création? Bien, c'est la vie. Et la vie, elle n'est précédée que d'elle-même. Et elle peut engendrer, effectivement, des œuvres qui vont entrer dans les musées, qui vont se vendre, qui vont entrer dans des manifestations qui ne vont pas nécessairement favoriser la créativité, mais enfin qui peuvent en diffuser. Je crois que la vie ne se précède pas, elle est précédée d'elle-même. Et il me semble aussi que d'un point de vue philosophique, la pensée, c'est un peu ça aussi. Voilà, merci. Je pense que j'ai répondu à vos attentes et je pense qu'en ce qui concerne le département, M. Brunet, vous aurez des choses à nous apprendre. Voilà, je pense que j'ai été
le parfait, temps. Parfait. Bon, merci voilà. Michel, on ne peut pas plus être plus parfait que vous. Oh. Voilà. Simplement, je voulais signaler parmi nous la présence de James Renault, qui était, et plus, je ne sais plus, tu as passé la main, président du conseil de développement du Grand Poitiers, et qui s'est beaucoup investi sur justement ce travail Poitiers, capitale solidaire des savoirs. Cité solidaire des savoirs. Ben, tu auras l'occasion d'en parler durant la visite. Donc je vous incite, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, ce n'est pas une obligation. Donc on a une guide conférencière qui va nous faire découvrir Poitiers un peu différemment sous l'angle ville des savoirs. Ça dure jusqu'à 18h30 environ. Il ne suffit pas d'avoir des chaussures de marche, hein, ça peut marcher comme ça. Et puis ensuite, on se retrouve à 20h ici, 20h10, hein, c'est pas pour justement déguster louisianais, marocain, enfin voilà, ou autre formule. Et demain, rendez-vous ici à 9h, évidemment, puisqu'on a deux journées assez intenses qui nous attendent. Voilà, merci de votre attention.